Jules, comment tu te sens aujourd'hui?
Je me sens en forme!
Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de podcast. Salut à ceux et celles qui nous écoutent. Enfin, qui nous regardent pour le coup sur YouTube, sur Internet. On est en train de faire coucou à la caméra si vous nous écoutez actuellement dans la voiture. Parce qu'on est sur Spotify, Deezer, Apple Music, toutes les applications audio. On cherche sous influence podcast et on est
SoundCloud.
Dessus. SoundCloud aussi, j'upload les épisodes enfin, tous les soirs, non, à chaque fois qu'on en publie un. Bref, bienvenue tout le monde. What's up?
LimeWire?
Non, LimeWire, non, Emule aussi, par contre.
Oui.
Du coup,
vous sortez des vieux trucs.
Alors, vous venez de l'entendre. Valentin, bonsoir.
Bonsoir.
Tu es dans le titre du podcast parce que tu es invité ce soir.
Moi, je suis une star.
Yes, t'es la star de la soirée parce que on voulait parler un petit peu de l'immigration au Canada. Moi, personnellement, ça fait 9 ans que je suis ici au Québec. Et puis, vu que je stream depuis quelques années, je fais des vidéos. Enfin bref, les gens me regardent un peu aller. Ils me posent plein de questions sur comment faire, comment ça. Et tu sais, à chaque fois, j'ai essayé de faire des petites vidéos, mais c'est jamais assez pour donner vraiment assez d'informations d'un coup et rediriger les gens vers un truc qui est vraiment pertinent. À chaque fois, je leur dis, ouais, j'ai fait une vidéo, mais ça parle vite fait de ça. J'ai fait une vidéo, mais ça parle d'un resto.
Bah, en vrai, c'est un sujet hyper complexe parce qu'il y a tellement de types de visas qui existent avec différents
trucs. Ouais, c'est ça. En fait, je voulais juste avoir une... Déjà, on n'est pas le ministre de l'immigration, donc le but n'est pas non plus de venir « Salut tout le monde, on est en train de faire ça entre potes, c'est juste parce que... »
Après, si le Canada, il cherche un ministre, moi, je suis dispo.
Non, mais la vérité, je veux dire quand même qu'il n'y a aucune démarche chelou là-dedans ou quoi. C'est vrai parce qu'on est en train de parler d'immigration ou quoi. Ça peut... Vous allez voir, ça va finir...
Non, c'est plus pour essayer d'orienter un peu les gens, tu vois.
Ça va finir bizarre, ce podcast. Vous allez voir, c'est présenté par personne parce que pour la suite, là, on a programmé de parler d'autres trucs, mais... Ouais, pour commencer, donc pour en revenir au sujet principal, les gens n'arrêtent pas de me dire « Ouais, tu sais, j'arrête pas de voir tout le monde partir au Canada. Comment ça se passe ?» Donc, une première idée, un premier ordre d'idée serait déjà d'établir juste les étapes que suivrait quelqu'un pour se dire « Moi, je suis en France ou je suis quelque part ailleurs en Europe. J'aimerais ça bouger au Canada parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde. J'ai l'impression en tout cas qu'il le fait. J'ai des potes que je connais depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans. » Tu sais, je les ai connus, ils étaient français. Et là, il y a 2 ans, ils me disent « Ouais, je suis là depuis 2 ans et tout. » T'en fais partie, toi?
Ah bah ouais, on s'est connus, j'étais en France.
C'est pour ça que t'es là, toi.
J'étais jamais venu au Québec, je crois, même au début quand
ouais, on s'est connus, t'étais jamais venu au Canada.
C'est ça. Non, bah en fait, ce qui est étonnant, c'est que moi, à l'époque, je suis venu au Canada et c'était pas vraiment, entre guillemets, la mode. J'entendais pas autant de gens dire « Oh, j'aimerais vivre au Canada et tout. » Moi, c'est un rêve que j'avais depuis que j'étais tout petit, tu vois. Tu sais, en grandissant, tu dis « Ouais, j'étais gamin, c'était un rêve n'importe quoi. » Puis j'ai eu l'occasion, je suis venu, tu vois.
Ouais.
Mais je me rends compte que depuis la première fois que je suis venu au Québec, c'est-à-dire il y a 5 ans, j'entends mais tout le monde dire « Hey, je veux venir vivre au Canada, toi, comment t'as fait, etc. » Et plus le temps passe, plus les gens ils sont intéressés par le fait de venir. Déjà, ça, c'est incroyable.
C'est vrai.
Il y a une évolution incroyable. Plus le temps passe, plus il y a de gens qui viennent. Et on entend souvent parler de plusieurs manières, donc du coup, de venir ici. Il y a les gens, ils connaissent tout ce qui est les PVT, les visas. Enfin, il y a beaucoup de types de visas.
Ouais.
Moi, je vais essayer d'expliquer ce que je connais par rapport au type de visa. Il y a à peu près les différences qu'il y a.
Ouais, t'inquiète. De toute façon, le but, c'est pas de non plus de, comme je disais encore une fois, on va pas faire le gouvernement.
C'est ça,
ici.
C'est pas un tutoriel non plus, tu vois. C'est juste pour parler un peu d'expérience.
Il y a des ressources, on donnera quelques ressources, on mettra des liens et tout intéressants dans la description. Mais on en viendra aussi aux anecdotes parce qu'en vrai, j'ai pas mal aussi de questions qui ont été posées par les gens. Des questions brutes, tu sais, genre si je viens, il me faut combien de thunes? Si je veux faire ça, il faut. Bref,
ouais,
j'ai
on fera un petit.
On y viendra,
section,
tu vois, genre des trucs vraiment beaucoup plus bruts, beaucoup plus vrais. Pareil, pour ceux et celles qui nous suivront en direct sur la chaîne Twitch, pourront poser des questions dans le chat. À un moment, on s'arrêtera, on répondra. Voilà, ce sera les questions vraiment des gens qui sont curieux.
Voilà.
Et ouais, mais pour commencer, du coup, toi là, Valentin, quand il y a 5 ans,
oui.
qu'est-ce qui t'a ramené au Québec?
Un avion.
Ah, enfin, je sais que. Oh mon dieu, il a pas osé. Non, ok, bon, voilà, ça annonce la couleur de la soirée, Valentin.
Ok.
Sur des très mauvaises.
Non, c'est bon, ok, je vais raconter. Bon, je vais pas raconter ma vie, mais en vrai, j'étais en France comme ça.
Raconte ta vie,
Ok, allez.
Là.
Rapidement.
Oh, wow. Évidemment, rapidement. Non, moi, j'avais décidé d'arrêter mes études et là, j'étais en stand-by, j'essaie de trouver du travail et tout. Puis c'est compliqué en France de trouver du travail et tout quand je sors tes études et que tu les as pas terminées. Mm-hmm. Et en fait, ça faisait 1 an et demi que je m'entraînais physiquement pour rentrer à l'armée. Et après, j'ai été passé test de sélection et tout. Puis après les tests de sélection, j'ai eu l'occasion d'aller au Canada. Je me suis dit, bah, je sais pas pourquoi pas. Tu sais, je suis jeune, on va voir ce que ça donne et tout. Je suis allé au Canada. J'ai rencontré ma copine, ça m'a plu le Canada. Je me suis dit, oh, c'est chouette. Mais j'avais pas tout de suite dans l'optique de me dire, je vais rester vivre au Canada, tu vois. Donc, je suis venu ici 3 mois. je suis reparti.
Vrai, toi, quand je t'ai connu un peu, désolé, je t'interromps, vas-y, mais je me rappelle, c'est cette période-là où on s'est connus, toi et moi, t'étais venu au Québec justement pour l'armée. Je me rappelle, t'étais dans des délires d'armée et tout.
Je devais rentrer à l'armée, mais j'ai changé d'avis au final.
T'étais en tenue militaire et tout, je me rappelle, c'était ta photo.
Changement complet de voix.
C'est cette période-là où je t'avais connu. Et d'accord. C'était juste pour me situer un petit peu.
Depuis, j'ai plus
ans.
Fait de sport, j'ai mangé de la poutine, j'ai grossi, rien à voir.
Non, mais vas-y, continue.
C'est
du
un
coup.
Des effets négatifs du Canada.
Ouais, c'est
on
ça.
On en parlera un peu plus.
Et bien, pas beaucoup, mais ça en fait partie. Non, du coup, je suis venu ici, j'ai passé quelques mois, je me suis dit, c'est cool. Puis ma copine était ici. Du coup, je suis rentré en France, et puis moi, je me suis dit, mon premier visa, je vais le terminer, je vais rentrer en France. Et puis, une fois arrivé en France, tu sais, je vais faire le point sur ma vie. J'avais. 21, 22 ans, je me dis ok, je fais quoi? Je réfléchis parce que je me dis je suis jeune quand même, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à vouloir rentrer à l'armée? Est-ce que je trouve un autre taf en France? Ou est-ce que j'essaie de me dire ok, je prends une décision de faire en sorte d'aller vivre au Canada avec ma copine parce que ça se passait plutôt bien, etc. Et honnêtement, c'est pas facile comme décision, tu sais, il y a plein de gens qui viennent me voir, c'est j'aimerais vivre au Canada, etc. Moi, le premier conseil que je donnerais aux gens, c'est faites déjà un séjour au Canada, temporaire, ne serait-ce que pour voir si ça vous plaît, parce que. Ce qu'on entend sur un pays, tu peux pas vraiment le savoir toi-même si tu l'as pas vécu. Donc ça, pour moi, c'est plus important de ceux qui veulent un jour vivre au Canada. Venez en séjour, ils ne mordent pas les Canadiens. Et ça fait 5 ans que je suis là, j'ai pas encore vu un seul orignal, donc n'ayez pas peur des orignaux.
C'est cliché, lui,
les
là.
Les caribous, plus. Hein.
Les caribous, excuse-moi, ouais. les caribous, comme disent les Français.
Exactement.
Et d'ailleurs, je fais une petite aparté. Quand quelqu'un vous dit qu'il est québécois, évitez de faire l'accent, c'est malaisant.
Merci.
Voilà, non, en vrai, venez. Parmi les plus grands questionnements dont j'ai entendu parler, c'est les gens, c'est, oh, c'est cher, le Canada, le Québec et tout, ne serait-ce que l'avion et tout. En vrai, moi, mes premiers billets d'avion, ils m'avaient coûté environ 600 euros aller-retour.
Et si tu viens dans la haute saison, genre pendant les vacances scolaires et tout, les ça moins peut monter jusqu'à 1000 euros, 1200
c'est ça,
euros,
c'est ça. Les moins chers que j'ai vus, c'était vers les 400 allers-retours, ce qui est pas cher pour un aller-retour.
Mais tu sais, avant d'en arriver au billet d'avion, là, pour toi, là, t'avais fait quoi comme démarche pour venir?
Ah, tu veux moi de tout? Ok.
Non, mais parce que je serais curieux de savoir, parce que, en fait, toi, t'étais venu pour l'armée, après t'as dit que c'était... T'avais...
Non, en fait, j'attendais ma réponse pour l'armée, okay. Et vu que j'étais en stand-by... Je suis venu ici, je me suis dit, je vais venir au Canada.
T'es venu 3 mois la première fois ?
Ouais, c'est ça. Okay. Parce qu'en fait, moi, à la base, je voulais vraiment entrer dans l'armée à l'époque. Mais quand j'étais petit, je voulais vivre au Canada. Je me dis, ah, c'est une occasion.
C'est
quand
comme
même.
Jules et le Japon, en fait.
Tu sais, je me dis, j'ai déjà voyagé dans l'Europe, mais j'ai jamais pris l'avion pour aussi loin. Je me dis, c'est quand même un truc à faire. Je suis jeune, j'en profite. Uh-huh. Je suis venu ici, puis du coup, j'ai changé d'avis. Du coup, désolé, l'armée française. Je vous aime. Non, en vrai, je suis venu ici en visa de visiteur. Donc, quand tu arrives à la douane canadienne, soit tu t'es déjà arrangé à l'avance pour avoir un visa préétabli en contactant les services. Il y a peu de gens qui le font. Généralement, les gens, ils prennent un billet d'avion, ils arrivent au Canada, ils disent bonjour, je viens en séjour 2-3 semaines et on te fait un visa en fonction de ce que tu as
fait. Ouais, ce truc sur place, quoi, comme dans plein de pays où tu vas en vacances généralement.
C'est pour ça que généralement, il faut un billet de retour parce que sinon, les gens, si t'es jamais venu au Canada, que
tu veux pas avoir un billet aller simple, quoi.
C'est ça, ils vont trouver ça suspicieux. Forcément, c'est des douanes, leur travail, c'est de réguler les immigrations et de contrôler toutes les personnes et les marchandises qui passent. Donc forcément, ils sont méfiants, c'est leur travail. Moi, du coup, je suis venu plusieurs fois en visa de visiteur parce que. Comme je disais, j'ai réfléchi à est-ce que je voulais m'installer au Canada ou pas. Puis ça, c'est pas un truc qui se décide en quelques semaines. Tu sais, j'ai toute ma famille en France.
Bah ouais, normal.
Tu sais, j'ai des sœurs qui étaient jeunes. Tu dis, je les verrais pas trop grandir et tout. Tu sais, mes parents, c'est pareil, tu vois. Et c'était long à choisir. Et puis, du coup, je faisais quelques séjours au Canada. Je revenais en France. Et après, je repartais de temps en temps. Et au final, je me suis dit, je me sens prêt à prendre une décision. Et en vrai, ce laps de temps, ça m'a peut-être pris entre 6 mois et 1 an d'être vraiment sûr dans ma tête, de me dire « Ok, j'ai envie de faire le pari d'essayer d'aller m'installer au Canada. » Donc après, j'ai commencé les démarches. En vrai, les démarches, genre comprendre qu'est-ce qu'il faut faire comme papier, quel type de visa je dois appliquer, ce genre de choses, c'était pas si compliqué.
Toi, à savoir que t'es français.
C'est ça, je suis français.
Juste pour préciser pour ceux qui nous écoutent.
C'est ça.
Quoi, ouais.
Donc au début, tu cherches sur Google Immigration Canada, tu tombes facilement sur le site de l'immigration canadienne et en vrai, le site visuellement, il a l'air un peu ancien, un peu vieillot, mais il est extrêmement bien fait et complet. Tu peux poser n'importe quelle question, que ce soit sur des visas, des passeports. T'as vraiment tout et tout est vachement super détaillé.
C'est vrai. Hein.
Et du coup, moi, je voulais du coup faire un visa de résident permanent. Parce que vu que ma
conjointe...
Mais
ça, c'est même pas un visa, c'est une carte de résident permanent.
C'est une carte de résident permanent.
C'est plus, ça, c'est genre 10 ans de résidence, non?
Non, je pense que c'est même pas, je crois que c'est 4-5 ans. J'ai pas regardé sur ma carte.
Mais c'est parce que c'est gros, je veux dire, ça, c'est immigré carrément, quoi.
Ouais, c'est ça.
Parce que ça, c'est la même carte que j'avais fait il y a 8 ans, 9 ans, moi. Avec... Depuis l'Algérie, on était obligé de faire ça, nous, on pouvait pas faire le PVT ou quoi.
C'est ça. Moi, j'avais un peu d'argent de côté à l'époque et mes parents m'envoyaient un peu d'argent. Forcément, on remerciera jamais assez nos parents.
Hell yeah.
Et du coup, forcément, le problème se pose, c'est que je suis là en tant que visa de visiteur. J'aimerais devenir résident du Canada, sauf que j'ai pas de permis de travail, j'ai pas le droit de travailler. Donc, forcément, déjà, niveau finance, tu calcules ce que t'as en poche, ce que tes parents et toi, parce que mes parents, c'est pas non plus des milliardaires, ils m'envoient peut-être 200-300 balles par mois. C'est pas grand chose, mais c'est quand même déjà bien, tu vois.
Ouais.
Et du coup, c'est pour ça aussi que j'ai fait une demande de résident permanent, parce que ce que tu peux faire, j'expliquerai en détail après comment ça se passe. Pendant que t'es en attente de ta demande de résident, une fois que t'as envoyé les papiers, tu peux faire une demande connexe de dire ok, pendant le temps que vous examinez ma demande, je veux un permis de travail ouvert.
Ah ouais.
Donc ça coûte des frais en plus, forcément c'est un dossier en plus à remplir, mais ce qui te permet de, quand t'es déjà sur le territoire canadien ou peu importe, que tu puisses quand même travailler.
Ouais, c'est cool.
Donc moi au début j'étais un peu comme ça, j'étais un peu plus ou moins en stand-by, mais j'avais eu un visa de travail ouvert, donc j'ai pu trouver du travail et forcément niveau finance pour se loger et manger, c'était un peu plus simple. Et c'est aussi pour ça à l'époque que je faisais des live Twitch, parce que c'était un peu de l'argent supplémentaire pour payer les loyers, les courses et manger, ce genre de choses. Donc ça, c'est vraiment, quand on veut faire une demande de résident permanent et qu'on n'a pas vraiment de visa de travail, ce serait bien de le demander, le visa de travail, parce que sinon, niveau finance, c'est un peu complexe.
Non, c'est ça. Et puis juste pour finir sur la résidence permanente, comme toi t'as dit, parce que moi, je suis bien familier avec ça, étant donné que depuis l'Algérie, nous, il n'y a pas une entente directe en mode « Ouais, vous venez habiter là après 6 mois. » Nous, c'est tu soumets une demande justement de… carte de résidence permanente, tu dis par exemple soit tu es jeune et tu... En fait, ils te demandent qu'est-ce que t'as à offrir, qu'est-ce que tu fais et tout.
Classique.
C'est genre, moi, mes parents, ils disaient ouais, on a 3 enfants, ou on avait... Je sais même pas si les jumelles étaient... Les jumelles sont nées au moment où on partait, mes petites sœurs. Du coup, ils disaient on a 5 enfants, on est 2 médecins, machin truc, on vient faire ci. Et ils ont fait ok, parfait, mais ça a pris 3 ans, tu vois. On est resté en Algérie pendant 3 ans, on n'a pas pu venir, donc on était là-bas en train de chiller tranquille. C'était grave cool. Puis après ça, ils nous ont fait ding-dong, vous avez été approuvé, ils nous ont donné la carte. Donc ça peut aussi être un truc que tu fais depuis chez toi.
Yes.
Nous, genre, c'était mes parents, je me rappelle, ils ont fait la demande, ils ont soumis le dossier, c'est un truc qui est...
Ouais, ça, tu sais, tu peux le faire depuis la France aussi.
C'est ça, c'est un peu...
Y a deux... moi, c'est une manière un peu plus ou moins particulière, parce que quand tu fais une demande de résident, t'as genre 30 motifs différents que tu dois sélectionner, parce qu'il peut y avoir 30 raisons pour lesquelles tu veux demander la demande de résident. Et moi, c'était via un parrainage, du coup, vu que j'avais une conjointe et ça faisait 2 ans qu'on était ensemble. Et du coup, tu dis, je veux devenir résident permanent en étant parrainé par cette personne. Mais après, il faut que tu apportes des preuves que tu as une relation sérieuse et tout, et pas que c'est une fausse relation pour immigrer légalement, tu vois. Donc, il y a quand même beaucoup de papiers à donner. Et moi, à l'époque, quand j'ai fait ma demande de résident, les délais de réponse entre le moment où tu as le dossier complet et où tu as la réponse, c'était à peu près 12 mois. Faut savoir que plus le temps passe, plus les délais sont longs. Là, dernièrement, un délai de réponse, je crois que c'est 38 mois, quelque chose comme ça. C'est de plus en plus long. Donc, et je pense que ça aussi, c'est le signe qu'il y a de plus en plus de personnes intéressées par le fait de venir vivre au Canada, parce que les délais sont de plus en plus longs, parce qu'il y a de plus en plus de demandes. Et même au-delà du simple demande de résident, parce que c'est quand même assez particulier, la plupart des gens ils font juste des PVT, même les PVT, il y a de plus en plus de demandes.
Ouais.
Et le Canada, ça se voit quand même que d'année en année, ils augmentent quand même les personnes qui prennent pour les PVT et autres visas plus ou moins similaires aux PVT.
Mais la demande augmente plus vite que l'offre.
C'est ça, clairement, oui. Moi, du coup, voilà, j'ai fait ma demande, j'ai envoyé mes dossiers. Ça coûte une certaine somme d'argent. Je crois que la somme d'argent... pour tous les frais de dossier et la visite médicale, parce qu'il y a une visite médicale à passer.
Tu dois juste passer une visite.
Pour prouver que tu es en bonne santé.
Ouais, tu dois aller chez n'importe quel médecin et avoir une attestation.
C'est ça.
Les attestations
faut que ce soit un médecin, par contre, qui est validé par le ministère de l'Immigration. Donc, c'est des bureaux spéciaux. Donc, ils te font des prises de sang, trucs classiques. Et en tous les frais, il y en a pour entre 2 et 3 000 euros à peu près. Tous les frais de dossier.
Mais ça, c'est pour la résidence, on est d'accord?
Pour la résidence.
Ok, mais ça, c'est pas le PVT et tout. Hein.
Non, PVT, c'est complètement différent.
Ouais, on y viendra, ça, c'est
plus ça. Moi, je parle de mon expérience pour l'instant.
Non, mais
parce
continue,
que c'est,
mais c'est
un,
juste
c'est
pour situer les gens, parce qu'il y en a qui peuvent stresser, ils peuvent faire moins.
Non, tout ce qui est PVT, on va un peu parler après.
Mais t'inquiète, continue, c'est très intéressant.
Donc, moi, c'est ça. Du coup, j'avais fait une demande, je crois, qui était en décembre 2017. J'ai envoyé mon dossier complet. Et j'ai eu ma réponse de résidence permanente en janvier de cette année qui était positive. Donc ça a pris un petit peu plus qu'un an. Il faut savoir qu'entre-temps, il y a vraiment beaucoup de papiers et de processus parce qu'il faut savoir bah, qu'au Canada, il y a plusieurs provinces. Et quand tu appliques pour être résident, tu appliques aussi par rapport à la province où tu habites. Donc il faut que la province où tu habites t'accepte d'abord. Donc si le Québec t'accepte, après c'est le Canada qui va évaluer ta demande et qui disent ok, bah, le Québec vous a accepté, maintenant c'est à nous le Canada de voir si on vous accepte pour de bon et qu'il faut que les deux acceptent. Donc c'est pour ça que ça prend beaucoup de temps, ce genre de choses.
Et j'ai vu quelqu'un demander est-ce qu'il check ton casier judiciaire. Je dois répondre que oui. Voilà.
Oui.
Je vais répondre que oui, parce que c'est une bonne question. La vérité, c'est une bonne question.
Il demande les extraits de casier judiciaire. Ça aussi, ça ajoute un peu de longueur à la demande de dossier parce qu'il y a quand même beaucoup de papiers que tu dois demander à l'administration française. Et ça prend un peu de temps et de délai. Aujourd'hui, avec l'informatique, tu as beaucoup d'administrations qui peuvent te livrer tes actes de naissance et tout, mais sur le territoire français, ce n'est pas pour tous les papiers qui peuvent te livrer à l'étranger. Moi, l'acte de naissance, j'ai dû payer un supplément pour qu'ils puissent me livrer à l'étranger. Par contre, il me semble que mon extrait de casier judiciaire, j'ai dû le faire livrer chez mes parents, puis qu'ils me le scannent et tout. Donc, ce n'est pas tous les papiers que tu peux te faire livrer à l'étranger. Donc, prévoir un peu d'organisation.
C'est vrai
par
qu'il demande beaucoup de trucs. Hein. Ouais, genre, nous, on était en Algérie, demander des extraits de naissance. Va trouver ton extrait de naissance à Wargla.
Ouais, c'est ça.
C'est quoi un extrait de naissance?
Ah, gros, c'est
bah,
ça.
Ce qui prouve.
Un certificat de naissance.
La preuve que t'es né, qui sont tes parents.
Ouais.
Ils m'ont demandé ça, mais genre pour toute ma famille. Ils voulaient savoir les actes de naissance de mes deux parents, de mes sœurs.
Mais ils demandaient des bulletins de chaque année scolaire, de chacun des enfants et tout.
Ils m'ont demandé ça aussi, mes bulletins scolaires, de toutes mes années scolaires.
D'accord, tu vois, voilà. Mais ça, encore une fois, c'est pour la résidence.
Ouais, c'est hyper lourd.
Ça sert à quoi, ça?
Mais ça, c'est
ils font une vérification de quitter.
Mais genre, c'est quoi les critères pour être choisi?
Mais je pense qu'il n'y a pas vraiment de critères.
C'est quelqu'un de prometteur, c'est quelqu'un de prometteur. Genre, en vrai, je sais pas, j'ai jamais checké officiellement. Mais j'imagine pourquoi ils te demanderaient tes bulletins. Qu'est-ce que t'as fait dans la vie, qu'est-ce que ton expérience, ton CV, ils te demandent plein de trucs comme ça. C'est comme une grosse entrevue en vrai, hein. Je pense pas que ce soit juste pour
ça. Après, je vais pas parler à la place de l'immigration, mais je suppose que il y a tellement de demandes que forcément pour le pays, c'est plus intéressant d'accepter quelqu'un qui a potentiellement des chances d'être sur le marché du travail.
Ouais, je me rappelle à l'époque, ils disaient par exemple, c'était plus intéressant, par exemple, les familles qui avaient des enfants, c'était beaucoup plus privilégié. Ils acceptaient les dossiers beaucoup plus vite, par exemple. Ils étaient la moyenne d'âge de la province baissée. Tous les dossiers où il y a des jeunes enfants, genre de moins de. Enfin, juste des enfants, hop, on accepte plus vite.
C'est ça.
Du coup, moi, je me rappelle, on était genre 4 enfants, ils ont dit allez, venez, allez tout de
suite. Puis, genre, si t'es endetté jusqu'au cou en France, bah, ils aimeraient le savoir avant que t'arrives au Canada.
Ouais, c'est ça.
Logique, ouais.
Tu sais, ils essaient d'assurer un peu leurs arrières.
Mais ça, c'est intéressant, c'est cool qu'on ait commencé par parler de la résidence finalement, parce qu'au final, c'est pas ce que t'as fait, mais on y viendra aussi, on y reviendra.
Ouais.
Mais. Ouais, c'est intéressant aussi pour les personnes qui, comme on le disait, viennent en famille ou qui sont, je sais pas moi, pères de famille qui ont des enfants.
Après, on a oublié de préciser ce que je vais dire là pour mon expérience. C'est mon expérience en tant que Français. Il faut savoir que les types de visas, les quotas, les choses demandées sont pas pareilles en fonction de si vous êtes Français, Belge, Suisse,
absolument,
Algérien, Marocain,
Russe,
peu importe.
Ah ouais, bah oui, bien sûr.
Donc moi, je parlais par rapport à mon expérience. Et deuxième chose à savoir aussi, c'est que depuis la première fois que je suis arrivé au Québec il y a 5 ans, on va dire que les critères, ils changent à peu près à chaque année. Chaque année, ils vont affiner certains critères, en alléger d'autres, etc. En fonction justement de la demande d'immigration dont ils ont besoin au Canada, forcément.
Ouais.
Et des changements gouvernementaux.
Ouais, voilà, il y a quand même beaucoup de trucs qui influent, forcément.
Ouais, je vois. Mais non, c'est ça, ça peut être intéressant pour quelqu'un qui pense c'est vraiment plus pour le long terme.
C'est ça.
Et pas juste, j'aimerais ça partir dans tout de suite, là, plus... et peut-être que j'irai refaire ma vie ailleurs avec ma famille ou alors avec mon... Parce que j'ai rencontré des gens dernièrement, je sais pas, des potes à moi dans la trentaine ou quoi, avec un enfant. Ils disaient, je pense que j'irai vivre au Canada.
Une décision qui se prend à la légère non plus.
Non, mais c'est pour ça qu'ils réfléchissent. Et puis même s'ils le font, ils pensaient pas le faire à la... ils peuvent pas le faire à la légère. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est une procédure qui peut prendre jusqu'à 3 ans.
En termes de papier, c'est vraiment... Après, c'est du langage administratif, les papiers, c'est ultra carré, strict, c'est... C'est chiant à faire, il n'y a aucun papier de métrique.
Mais comme tu as dit, comme tu as dit, c'est une démarche qui est vraiment bien guidée, hein, la vérité.
Non, en vrai, sur le site Immigration Canada, c'est extrêmement bien guidé.
Si tu sais faire une recherche Google, tu sais remplir le truc.
C'est ça. Après, sachant que comme tout processus migratoire, peu importe, tu peux faire appel à des avocats spécialisés ou des personnes dont c'est le métier qui peuvent t'aider et appuyer officiellement ta demande. Genre, tu peux dire... je fais ma demande de résident permanent et je serai aidé par telle personne qui s'assure que tu remplisses ça.
Avoir un garant.
C'est ça. Yeah. D'ailleurs, je viens d'y penser, on parlait de casier et tout et de choses qui évoluent. Depuis un an ou deux, ils demandent aussi les données biométriques, les empreintes digitales, ce genre de choses.
Ah ouais, vas-y, c'est bon, en fait, on va rester chez nous si c'est comme ça, là. Big Brother, là, c'est bon.
Mais en tant que visiteur, est-ce que tu te souviens, c'est quoi la limite de temps que tu peux rester ici?
Alors, quand tu arrives en tant que visa de visiteur, là, alors généralement, quand il peut se passer deux choses... D'après mon expérience, hein, c'est
ça a peut-être pas changé ça entre
comme
temps,
argent ouais. comptant, puis je suis pas agent des services d'immigration.
C'est des infos qui se trouvent facilement c'est ça. De toute façon. Ouais.
Donc si entre guillemets t'es pas calculé comme une personne plus ou moins à risque, généralement ils vont soit te faire un visa de toute la durée de ton billet d'avion, donc du moment où t'as débarqué de l'avion jusqu'au jour où il y a ta date de billet de retour, ou sinon ils vont juste mettre un tampon sur ton passeport, ce qui implicitement veut dire que maximum tu peux rester 6 mois dans le pays.
Wow.
Voilà. Après, c'est quand même hyper vérifié tout ce qui est aller-retour, etc. Ouais. Quand ça fait plusieurs fois que tu fais des allers-retours, t'as les douanes, forcément, elles vont être plus suspicieuses envers toi et beaucoup plus demandantes. Genre, ils vont
ouais,
te demander.
En fait, c'est comme tous les pays, ouais. C'est comme.
C'est ça.
Pas complètement, parce que ici, en tout cas, en tant que Canadien, si tu veux aller en France, en tant que visiteur, c'est maximum 90 jours.
Ouais.
Donc, t'as quand même une grosse différence. Ici, c'est 6 mois.
Maximum. Après, ils te donnent pas forcément maximum.
Mais disons que tu veux te faire un avis là, sur la vie, tu peux quand même rester en tant que visiteur un bon 3-4 mois. Tu essayes le mode de vie un peu, tu vois. Après, tu peux repartir.
En vrai, quelqu'un qui veut vivre au Québec, je pense qu'il devrait rester 3 semaines, 1 mois pour vraiment se faire une idée.
Mais est-ce que tu es d'accord quand même qu'un petit séjour d'une semaine permet quand même de voir un peu vite fait à quoi ça ressemble?
Oui, au moins tu vois un peu le cadre de vie, c'est sûr. Mais après, si tu vas être plus ou moins confortable pour ta décision. 3 semaines, 1 mois, au moins, c'est... peut-être tu prends le temps.
Ouais, mais on a vu la plupart des gens qui sont venus ici, généralement, ils sont tout le temps venus 5 jours, 6 jours, une semaine.
Ouais.
Genre, je pense à plein de potes comme Ilyes Nakou, il y a 5 ans, quand il commençait à venir au Québec, à Montréal. Et tu sais, la première fois, il est venu 4-5 jours, il n'avait pas trop le temps, après, il est revenu une semaine. Tu vois, à chaque fois, il vient, il kiffe.
Ouais,
ils viennent de plus en plus.
Après, aujourd'hui, on a un truc formidable qui s'appelle Internet. Il y a quand même beaucoup de forums où les gens ils parlent de les différences, de comment ça se passe au Québec qu'ici. Par exemple, je vais citer un exemple juste comme ça. Tout ce qui est les plaques d'immatriculation, le permis de conduire, c'est des systèmes très différents au Québec qu'en France.
Carte grise, permis, tout ça.
Ça, tout ce qui est système de carte. Tu sais, c'est plein de trucs qui te sont utiles au quotidien, mais bah, que c'est bien à savoir si tu veux décider de partir.
Et moi, tu sais
Québec.
Ce que je dirais par rapport à ça aussi, je dirais que c'est une bonne chose à savoir, puis les ressources sont disponibles, mais il ne faut pas non plus trop se buter avec ça. Il y a des gens qui sont trop stressés avec ça. Avant de partir, ils sont surpréparés. Je dirais pas, tu peux pas être surpréparé, mais il y a des gens qui stressent trop avec ça en mode ah, comment je vais faire ci, comment je vais faire ça. Tu sais, les démarches sont assez claires. Puis, comme on disait encore une fois, pour en revenir à ce qu'il y a à faire, c'est bien-être. Donc, faut pas non plus devenir fou. Des fois, les gens ils disent ouais,
non,
qu'est-ce que
non,
je devrais
non,
faire
juste, renseigne-toi.
Comment, où est-ce
tout.
Que je vais? Qu'est-ce que je devrais pas rater? Est-ce que j'y vais? Est-ce que je devrais faire ci? Est-ce que je devrais faire ça? Ça reste,
c'est
comme
ça.
On le disait, assez simple au final. Mais ouais, pour en revenir au PVT.
Yes.
Ça pour le coup c'est je pense un petit peu plus populaire, ça arrête pas là, chaque année il y a 40 millions de demandes à chaque fois.
Bah ce qui est bien parce qu'on parlait de entre une semaine et un mois pour bien connaître un pays, le PVT c'est genre le parfait compromis parce qu'un PVT pour ceux qui savent pas c'est un permis vacances travail, donc c'est un visa on va dire longue durée qui peut durer de 1 an à 2 ans. Alors en fonction ça aussi pareil si vous êtes francophone, belge, suisse ou français, les durées de PVT, plein de choses comme ça, elles varient beaucoup. Mais je pense dans le chat, on pourra vous mettre un lien d'un site qui s'appelle pvtis.net. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations sur...
En là, je pense, le site, ouais.
OK. donc, c'est vraiment un site qui est dédié pour ça, qui explique comment ça se passe, c'est quoi les démarches.
C'est quoi le lien, pardon?
Pvtist.net.
Pvtist.net. Ah, voilà. Merci.
Voilà. C'est vraiment un site dédié aux PVTistes qui font pas que le PVT, ils parlent aussi un peu des autres visas qui sont plus ou moins apparentés à du PVT. Et il y a bah, comment ça se passe les démarches, qu'est-ce qu'il vous faut comme papier, quels sont les prérequis. Eux aussi vont régulièrement sur le site de l'immigration au Canada, parce que sur le site de l'immigration, ils mettent à jour il y a combien de candidats actuellement, il reste combien de places, jusqu'à quand vous pouvez candidater. Et du coup, le site PVTistes, ils le mettent régulièrement à jour pour tenir informés les gens. Donc c'est un site assez complet. Donc si vous êtes vraiment intéressé par ça, je vous conseille d'aller voir ce site au moins pour vous faire une idée. Mais pour ceux qui aimeraient vite fait qu'on vous explique ce que c'est, donc un PVT ça vous permet d'être en séjour dans un pays et de pouvoir y travailler. Donc ça, c'est vraiment cool si vous voulez partir un séjour longue durée.
C'est le Canada, quoi.
C'est ça. Sachant qu'il y a des PVT pour plein de pays qui existent. Hein. Il y a le Japon, une chose comme ça. Mais ça vous permet de visiter un pays et de pouvoir travailler, ce qui vous permet de financer votre séjour. Si vous voulez visiter le Canada d'un bout à l'autre, bah, ça vous prend de l'argent pour payer le transport, les logements, la nourriture.
Juste pour vivre, ouais.
C'est ça. Donc, pouvoir travailler, avoir un income, un revenu financier, c'est sûr que ça aide. Donc... depuis quelques années, on voit qu'il y a quand même un énorme regain d'intérêt pour tout ce qui est PVT au niveau du Canada, en tout cas, parce qu'avant de venir à ce podcast-là, je me suis renseigné un peu sur l'évolution des demandes de PVT. Et toutes les statistiques de chaque année de PVT, elles sont disponibles soit sur le site que je viens de vous dire, soit sur l'Immigration Canada. Et on peut voir qu'il y a quelques années... généralement, le nombre de places ouvertes pour un PVT variait entre 4 et 8 000, sachant que pour cette année, il y avait 7 000 et quelques places et ils en ont rajouté 7 000 et quelques autres. Donc, il y a eu à peu près 15 000 places cette année d'ouvertes. Et au dernier chiffre, je crois qu'il y avait donc à peu près 14 à 15 000 places pour environ 25 000 demandes, ce qui fait quand même... dans tous les cas, énormément de demandes par rapport aux places disponibles. Après,
ça
forcément.
Ça va, en vrai, presque une chance sur deux, hein, ça passe. Même,
ouais, plus je suis surpris, moi. Je pensais que c'était beaucoup plus...
Plus qu'une chance sur deux, ça va, ça passe.
Mais normalement, c'est 7000, mais cette année, ils ont rajouté 7000 exceptionnellement.
En fait, j'ai regardé les chiffres des 4 dernières années et chaque année, ils augmentent de 1000, 2000. Et à moins que je me trompe, c'est vraiment cette année où j'ai vu qu'il y a quand même un gros rajout qui s'est fait dans le courant de l'année. Ensuite, petit détail, pour ceux qui voudraient prochainement s'inscrire à un PVT, actuellement, les inscriptions sont fermées. Ça va réouvrir bientôt pour la session 2020. La session 2020, j'aurais dure un an. Généralement, ça varie aussi quand ça ouvre et quand ça ferme, mais on va faire simple pour l'exemple. Admettons que ça ouvre en décembre cette année. Vous pouvez faire votre dossier et vous pouvez recevoir une acceptation de votre PVT jusqu'à environ décembre prochain. C'est à peu près un an la période, si on veut. Du coup, comment ça se passe? Vous allez sur le site de l'Immigration Canada ou sur des forums ou sur des sites qui vous expliquent les démarches.
Ouais, ça, les chances, elles vont tomber à 1 sur 12.
Voilà, et donc tout est expliqué. Vous remplissez votre dossier, il y a quand même quelques critères. Comme j'ai dit tout à l'heure récemment, il vous faudra aussi vous rendre dans un bureau pour prendre vos empreintes biométriques et les envoyer. C'est pas dans toutes les villes où on peut avoir les empreintes biométriques et les faire envoyer, donc ça se peut que vous deviez vous déplacer. Après, forcément, il y a des frais d'inscription pour le dossier de PVT, il y a des frais
pour... Il y a un Français qui valide là tout ce que tu dis derrière toi, là, il est en mode « oui, je valide ».
Il y a des frais pour aller faire ses empreintes. Il y a quand même beaucoup de frais, mais après, c'est pas énorme non plus. On va dire que les frais peuvent varier de 3 à 6, 800 euros. Ça peut être plus, ça peut être moins. La chose la plus importante que je vous dirais, c'est tous les sites clés en main, payez-nous tant, on s'occupe de tout, évitez tout de suite. Vous allez payer beaucoup plus cher pour quelque chose que vous pourrez faire vous-même via le site officiel de l'Immigration Canada.
Pour le coup, c'est comme acheter les billets là, pour le Louvre à 40 euros alors que tu peux l'acheter à 4 euros en descendant.
C'est ça, c'est ça. Donc évitez les sites où ils vous font des forfaits clés en main, ça ne sert à rien.
Après ça dépend hein. Comme t'as dit, pour certaines démarches ça va, mais il y a des grosses démarches qui nécessitent beaucoup.
Ouais, mais en vrai
taf.
Les démarches sont pas compliquées, il y a juste beaucoup de trucs à fournir. Mais genre tout est expliqué sur le site de l'Immigration, même sur tous les forums. Il y a tellement de forums aujourd'hui de gens qui peuvent vous raconter leurs expériences, ou peut-être il y a des personnes qui ont eu des difficultés dans le dossier ou qui ont trouvé certaines étapes compliquées. Bah, elles en parlent, puis elles vous donnent des petites astuces pour justement éviter de vous embêter autant que les personnes l'ont été. Donc en gros, vous faites votre dossier de candidature et une fois qu'il est... d'ailleurs, pensez à vous assurer qu'il soit vraiment bien complet, sinon ça va forcément retarder votre truc et diminuer vos chances d'être accepté. Donc une fois que vous avez envoyé votre dossier, il y a juste à attendre. Donc il existe plusieurs types de visas. Il y a les visas jeunes travailleurs, il y a les visas PVT, les VIE, tout ça c'est, on va dire, un truc global. Quand on fait un dossier... On fait un dossier au niveau du programme d'immigration du Canada, qui est un programme spécial qui encadre un petit peu tous ces visas. Et lorsqu'on dépose notre dossier, on peut faire une demande pour plusieurs de ces visas. Donc, si on veut un visa et jeune travailleur et qu'on veut aussi postuler pour PVT, c'est possible. Donc, comment ça se passe? C'est qu'une fois que votre dossier il est rempli, vous attendez et il y a ce qu'on appelle des rondes d'invitation. Donc, il y a des sessions où ils vont envoyer des invitations aux personnes. Donc, si vous êtes invité, vous recevez une invitation.
C'est pour ça que tu as dit que c'était ouvert pendant un an. Donc, tu peux recevoir une invitation n'importe quand.
C'est ça.
Durant l'année, durant la saison.
Je suppose qu'en fonction de l'offre et de la demande au niveau du Canada, il y a plus ou moins de places, ils en ouvrent plus ou moins, ils font des différentes batches d'invitation, ce genre de choses. Donc, vous recevez un mail, puis ça vous dit, vous avez reçu une invitation, et ça vous dit pour quel type de visa vous avez reçu votre invitation. Si c'est pour le PVT que vous avez demandé, ou si c'est pour le VIE, peu importe. Donc à ce moment-là, vous avez deux choix. Si c'est votre premier choix, bah vous acceptez, puis bienvenue à vous. Il reste le dernier étape à faire et vous arriverez au Canada. Ou sinon, vous vous dites, j'ai reçu une invitation pour tel visa, mais ce n'est pas mon premier choix. Vous pouvez prendre la chance de ne pas répondre ou refuser l'invitation en espérant d'être invité
à
pour
nouveau,
celui que vous voulez. En tout cas, recevoir une invitation, si vous avez postulé pour plusieurs trucs, ne vous élimine pas pour les autres. Mais ça ne veut pas dire que vous aurez une invitation pour les autres.
Je comprends. Je comprends ce que tu veux dire. Voilà. Je comprends la démarche. Elle n'a pas l'air compliquée. Tu dis je veux faire ça, ça, ça. Ou alors même tu veux dire je veux juste faire un PVT.
C'est
ça. Tu t'inscris et puis
en fait, ça a l'air compliqué parce qu'il y a beaucoup de types de visas et d'options. Mais dans les faits, c'est hyper simple.
Ouais,
tu choisis ton visa et trucs comme ça. D'ailleurs, je parlais du fait que le site de l'immigration Canada est hyper bien fait. Sur le site, il y a beaucoup de trucs où, avec des menus déroulants, ça vous marque. Êtes-vous potentiellement acceptable pour un PVT? Tu sélectionnes, je suis un garçon, une fille, non genré, j'ai tel âge, je travaille dans tel truc, tel diplôme étudiant, peu importe. Et après, ça vous dit, bah, avez-vous une chance d'être accepté ou est-ce que vous ne répondez pas aux critères pour être...
Ah ouais, donc c'est vrai, t'as une présélection à faire, gratuite, instantanée.
C'est ça, t'es pas obligé de le faire, mais si t'as des doutes, tu sélectionnes les trucs, puis le site, il va te le dire. Oui, est-ce que vous rentrez dans
ouais,
le cadre
t'es
ou
t'es pas obligé
pas.
De le faire, ça veut aussi dire tu veux rester dans le déni, quoi. Ouais.
Non, mais vaut mieux le faire pour s'assurer, parce que quitte à payer des frais et
ça,
prendre du temps à faire un dossier...
Ouais, ça sert à rien de rester dans le déni, au
c'est ça,
faire,
c'est ça, gratuit, faites-le, c'est gratuit, c'est sur le site de l'immigration, vous tapez... je crois que c'est canada.ca ou .com.
Est-ce qu'on peut, la régie va nous l'avoir dans quelques instants.
Il y a toute une session immigration avec tout ce qui est visa,
éligibilité
passeport,
PVT. On peut juste regarder éligibilité PVT. Voilà. On aura les infos dans quelques secondes.
Voilà.
Mais ouais.
Est-ce que je dis pour le PVT, il y a le même pour la résidence permanente, pour devenir résident canadien. C'est hyper bien fait
ouais.
Comme site.
C'est carré parce que nous, déjà, on avait fait ça encore une fois il y a 9 ans à l'époque. Et c'était déjà vraiment bien fait. Mais là, moi, je dis toujours ouais. Que l'administratif ici m'impressionnera toujours. Surtout, tout à l'heure, on parlait de certificat de naissance et tout. Alors qu'ici, à Montréal, il m'arrivait déjà, par exemple, de perdre mon passeport et de me rendre compte que je ne l'avais pas 2 jours avant un voyage. Et ben, je te jure, j'ai déjà eu un passeport en 24 heures. Je suis parti les voir. Bon, j'ai payé 90$.
Ouais,
mais c'est
tant
rien.
Que tu as l'argent.
Ouais, mais
pas de
ça va en vrai. 90$ de plus, c'est rien pour.
Ouais, c'est un voyage
pour
important.
Pour ne pas rater un billet d'avion. Et,
genre, si ton séjour, il t'a payé 5000 boules. Ouais,
bah
tu
ouais.
Vas payer.
Ouais, c'est ça, c'était en plus pour le taf. Tu vois, c'est même pas moi qui vais payer le billet d'avion
ouais.
Ou quoi. C'était
ouais, justement,
pire.
C'est pour le taf, c'est important. Tu vois.
Ouais, c'est encore pire. Mais ouais, c'est là où je voulais en venir. C'est que l'administratif, c'est vraiment, c'est vraiment carré. Mais donc, PVT, carte de résident. Et toi, finalement, t'as fait lequel des deux, t'as dit?
Moi j'ai eu ma résidence permanente.
Ouais,
je suis résident permanent du Canada.
T'as la petite carte là, t'as la petite carte blanche
ouais.
Avec ta tête dessus, autour c'est transparent.
Ouais, il y a une petite fenêtre transparente avec ma tête. C'est, ouais,
la
c'est
carte est vraiment cool.
C'est les nouvelles cartes parce que ouais. Je crois que Nabil t'avais pas eu une
non,
carte.
Non, je l'ai
pareille.
Plus, moi j'ai le passeport maintenant.
Ouais, mais à l'époque quand t'avais ta carte,
elle
était pas comme ça.
Ouais, non, c'est vrai, c'était une carte en plastique blanc dur ouais. Et.
Non, quelques... moi elle est en titane et tout, GPS et tout.
Ouais. non, il abuse, mais ouais.
Mais non.
C'est comme. En fait, ah bah tiens, j'allais dire, c'est comme les billets ici qui sont en plastique ou je ne me rappelle plus exactement du matériau.
Ouais. Polyuréthane.
Je sais pas, mais ils sont pas déchirables. Non.
Et waterproof, c'est trop stylé. Et on y viendra d'ailleurs. Moi, j'aimerais qu'on parle parce
en polymère.
Tu sais, c'est cool parce qu'on a parlé beaucoup des démarches, mais au moins ça situe les gens. Ah oui, un dernier truc pour vite fait clore cette discussion.
Yes.
Niveau argent pour donner des chiffres, tu avais balancé des chiffres. Pour la demande de résidence permanente, tu avais dit que ça pouvait monter jusqu'à 3000 euros plus ou moins.
Les frais de dossier, ouais.
Ouais, quand tu fais une demande.
PVT, c'est à peu
et
près.
Et ça, c'était pour toi tout seul en plus. Hein. Ça peut monter vite quand tu es
ouais,
à plusieurs personnes.
C'est sûr
quand
que bah,
une famille.
Plus ta demande concerne deux personnes, genre si vous voulez émigrer en famille, bah,
ouais,
plus
nous,
ça
je
va
me rappelle,
coûter
mes parents,
en frais de dossier.
Plus, c'était par tête, c'était
bah,
plus.
Plus que par personne, ils vont vous demander des sous. Puis après, vous, de votre côté, administrativement, s'il faut demander des papiers. À des institutions françaises et que c'est payant.
Comme tu avais dit, ouais, la biométrie, par exemple, d'accord.
C'est,
d'accord.
Bah ça, une biométrie, je crois que c'est à peu près $150 canadiens.
Donc 100
s'il
euros.
S'il y a 5 membres de la famille qui doivent faire les données biométriques, c'est sûr que ça allonge la facture en plus de bah, les rajouter, eux, sur la demande.
Ouais, donc, voilà, 500 euros de plus, bam.
C'est ça. Juste ouais. Pour les biométriques, donc ça se trouve, rajouter des personnes, c'est encore peut-être. Je connais pas le
montant. Non, je vois ce que tu veux dire.
Mais...
Yeah, yeah. Je comprends, d'accord. Parfait, ça nous situe. Mais sinon, donc, t'as eu ta carte de résident récemment.
Ouais.
Ton plan, j'imagine, c'est ultimement peut-être d'avoir la citoyenneté, pourquoi pas.
Yes. Bah là, récemment, j'ai commencé à me renseigner sur comment ça se passe la citoyenneté, parce que moi, je me plais bien au Canada et je travaille au Canada, je paye des impôts au Canada. Je ne travaille pas en France, je ne paye pas d'impôts en France. Donc actuellement, je suis plus canadien que français. Après, je renie pas mon pays du tout, c'est pas la question. Mais actuellement, mon activité, elle est utile au Canada. Donc je me dis, j'aimerais bien être citoyen de ce pays, puis faire partie bah, des gens qui font avancer le pays pour pouvoir, je sais pas, voter ou ce
genre
de
choses.
Ouais,
c'est normal, comme tout le monde.
Et donc généralement, d'après ce que j'ai lu récemment, c'est une fois qu'on est résident permanent, si on veut demander la citoyenneté canadienne, il faut, à partir du moment où on est devenu résident, le jour même,
ouais,
compter 1096 jours, je crois que ça fait exactement 3 ans.
Uh-huh.
Et au bout de ces 3 ans, on peut faire une demande de citoyenneté. Mmh. Après, il y a des critères qui sont, bah, vu que les deux langues principales du Canada, c'est l'anglais et le français, on demande à la personne de savoir parler un minimum français et un minimum anglais, donc que ce soit compréhension orale, écrite, ce genre de choses. En plus de ça, en termes de critères, il y a qu'est-ce qui se rajoute ? Il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses au niveau critères. Il faut que si tu étais tenu de payer tes impôts, bah, que tu as la preuve que tu as payé tes impôts et pas que tu fraudes le fisc. Et...
Moi, c'est drôle, ça me rappelle qu'on avait justement des amis de la famille qui sont venus ici et par exemple, les enfants, ils parlaient pas trop bien français, tu vois. Ils ont passé une petite année de cours ici quand même, donc il y avait des trucs, tu vois, ils sont venus, mais ils ont juste passé des cours et ils ont appris à parler français, puis là, laisse tomber, c'est, je sais plus combien d'années.
Après, il faut bien partir du principe que le Canada, il y a le pays, le Canada, et après, il y a les provinces. Et pour chaque démarche, la plupart des visas longue durée ou résidence citoyenneté, il y a une partie des démarches pour le Canada, une partie des démarches pour le Québec. Par exemple, là, pour la citoyenneté, il faut aussi connaître un minimum un peu l'histoire du Canada. Forcément, c'est le pays où tu veux t'installer.
Ah ouais, ouais, t'inquiète, moi je l'ai passé le test.
Mais il se peut que le Québec aussi te demande de connaître un peu aussi l'histoire du Québec. Donc ça, c'est possible aussi. Et après, je sais que certaines personnes qui ont par exemple des diplômes en anglais ou en français, ils peuvent les fournir. Certains diplômes sont déjà acceptés,
ouais,
ce qui allège un petit peu la demande. Et moi, dans mon cas de résident permanent, vu qu'avant d'être résident permanent, j'étais sous visa de permis de travail ouvert et qu'encore avant, j'étais en visa de visiteur, ce que je peux faire, c'est que je peux déduire une partie que j'ai passée au Canada de mes 3 ans qui me sont requis pour devenir citoyen. Après, le maximum que je peux déduire, c'est 1 an. Et il faut savoir que le quota, c'est je peux déduire une demi-journée par journée passée sur le territoire canadien,
ouais,
avant que je sois résident permanent.
Ouais, 6 mois sur 12 en fait.
C'est ça.
6 mois sur 12.
Donc là, actuellement, vu que j'ai passé plus d'un an avant d'être résident permanent, vu que je travaillais et que je payais des impôts, bah, je peux déduire 1 an. Ce qui fait que ma citoyenneté, je ne pourrais pas la demander 3 ans après ma résidence, mais je pourrais la demander au bout de 2 ans.
Ouais.
Et si je satisfais aux autres exigences forcément pour devenir citoyen.
Après, ils vont te donner, tu sais ce qu'ils vont te donner ? Quand tu vas faire ta demande pour la citoyenneté, que tu te verras éligible. Tu diras, ouais, je suis éligible. Tu donneras, c'est par exemple là où tu as travaillé ces dernières années, tes dernières adresses.
Ouais,
classique, quoi, comme pour une demande de passeport.
Classique, les relevés d'impôts.
La même chose qu'une demande de passeport à peu près, tu vois.
C'est ça.
Tu fais ta demande et après ça, ils vont t'envoyer un petit livret, un petit livre de 80 pages, un tout petit feuillet, un petit magazine avec plein de fun facts et plein de résumés d'histoire,
ouais, bah,
plein de bouts d'histoire du Canada.
J'ai lu que sur le site de l'immigration, on peut télécharger le guide pour découvrir le Canada et on pourra te poser des questions là-dessus et c'est disponible en version audio sur le site de l'immigration.
On dirait l'ambassadeur.
mais c'est
ça,
fou.
On dirait
non mais même le site, même l'immigration
ça.
Canada, il propose le livre en version
combien,
audio.
T'en payais combien?
Mais il se renseigne bien. Hein, il a tout scruté le site.
Non mais sur le site de l'immigration, t'as toute une liste avec l'histoire du Canada qui est en vocal et tout, en audio, c'est trop bien.
Ah, ouais. C'est cool.
Genre, si tu veux pas t'embêter à lire un livre qui est super long ou que t'as plus de facilité à comprendre quelque chose.
Comme
écouter.
Sur audible.fr/sous-influence.
Exactement, les livres audio, nouvelle révolution technologique.
Audible fait des livres audio.
Ouais.
Audible.fr/sous-influence, le sponsor du podcast. Il y a déjà plein de personnes qui ont adopté le service.
En vrai, c'est chouette parce que moi, je travaille beaucoup, j'ai pas forcément le temps de lire. Je pense que ça peut m'intéresser.
Ah oui, dans les transports, c'est l'idéal.
Tu vois,
hein.
Il est en train de faire la même chose qu'avec l'immigration, mais avec nous là. Il est en train de faire le vendu pour nous. Mais plus sérieusement, Audible, ils ont grave kiffé notre première collaboration. J'en parlerai pas longtemps, mais déjà, on a un site customisé directement, audible.fr/sous-influence. Vous irez voir quelle est l'offre, mais en tout cas, elle est intéressante. audible.fr/sous-influence. On vous saoulera pas plus longtemps avec ça, on vous en parlera bientôt dans un prochain épisode. Mais non, Valentin, après ça, mis à part l'administratif, les papiers, tout ça, à la base, on a dit qu'on n'en parlerait pas trop, mais c'est cool qu'on ait détaillé parce qu'il y en a qui savent peut-être pas du tout par où commencer, alors c'est nice. On mettra aussi des ressources.
Après, c'est mon expérience, elle pourrait être différente pour d'autres personnes, mais au moins j'ai dit les grandes lignes, les étapes à suivre et ce genre de
choses. Tu sais ce qu'on va faire ? On va mettre des ressources dans la description de la vidéo YouTube.
C'est ça.
Comme ça, les gens ils vont aller regarder dans la description de la vidéo YouTube. On mettra plein de ressources pour tout. Pour commencer, en fait, pour plusieurs personnes.
Google.com dans la description.
Ça va, on mettra quelques ressources un peu plus poussées. Et puis, comme ça, les gens ils vont venir sur la chaîne YouTube, ils vont s'abonner. On est à 80 000. Bientôt, la plaque des 100 000. Parfait, c'était le moment placement de produit. Et ouais, donc, comme je disais, Valentin, fini l'administratif. Comment ça se passe ? Tu kiffes ou pas ? Le Québec.
Bah, quand t'es dans l'attente d'avoir ta résidence permanente, t'es un peu stressé, mais une fois que tu l'as, tu profites de la vie, tu profites du Québec, tu profites de tout.
Oh là là.
Non, mais c'est vrai.
C'est
parce
quoi
que,
profiter du Québec?
Non, mais tu sais, profiter des paysages, de découvrir des gens, découvrir un peu des villes, de voyager un petit peu et tout. Mm-hmm. Bah, c'est avant, t'es dans l'inconnu un peu. Si
dans
c'est refusé, c'est retour en France. Puis du coup, tous les plans que tu t'étais imaginé, puis que tu avais pris du temps à prendre une décision de savoir si tu voulais partir au Canada ou pas, ça s'effondre d'un coup. Puis tu dis, il faut avoir d'autres plans pour autre chose.
C'est un stand-by.
Donc là, j'ai ma résidence. Je me dis, c'est bien, je peux travailler dans ce que je veux. C'est ça qui est cool, tu vois. Tu sais, j'ai beaucoup moins de restrictions du coup. Si je veux aller voir mes parents, ce genre de choses, c'est beaucoup moins restreint. Une fois que tu es résident, généralement, ce qu'ils te demandent, c'est dès que tu quittes le pays, de le consigner dans un journal pour le jour où tu veux devenir citoyen, d'avoir une.
C'est ça, les entrées et les sortie,
les
entrées sorties. C'est ça, comme je t'ai dit, comme une demande de passeport, ils te demandent aussi tes entrées et sorties.
Pour l'histoire des 3 ans dont j'ai parlé, il faut que tu prouves aussi que tu as bien passé les 3 ans sur le territoire canadien. Donc voilà. Non, je travaille, je paye des impôts, je suis content de payer des impôts au Canada parce que c'est le pays qui m'a accueilli. Tu mords pas la main qui te nourrit, tu sais, t'es accueilli chez des gens, tu respectes la maison des autres, tu vois, c'est un peu ça. J'ai été éduqué comme ça, moi.
Bah oui,
il est gentil.
Mais toi, vu que t'as décidé de t'établir ici, t'as décidé de venir, en tout cas, t'es résident permanent, qu'est-ce qui t'a justement donné envie? Parce que oui, t'as ta copine ici, t'as des amis, mais j'imagine qu'il y a aussi d'autres critères qui ont fait que le pays t'a intéressé.
En vrai, moi, j'étais pas dans le corps du mec qui se dit « j'en ai marre de la France, je veux quitter la France ». Non, j'étais vraiment dans « j'ai envie de découvrir autre chose ». C'est juste ça qui m'a motivé, c'est de découvrir autre chose. Parce que, tu sais, quand t'es en Europe, tu peux voyager assez facilement dans l'Europe, la Suisse, l'Angleterre et tout. C'est vachement cool, je découvre d'autres cultures et tout. Mais là, tu te dis, tu traverses un giga-océan, forcément que la culture, elle sera pas pareille. Les gars à l'autre bout de l'océan, ils ont beau parler français, ils parlent pas le même français que nous, ils ont clairement pas la même culture, ils ont pas la même histoire, rien à voir, tu vois. Techniquement, aujourd'hui, ce qu'on a en commun, c'est qu'on parle français, mais on n'a pas eu la même histoire, on a peut-être les mêmes origines, mais après, tout ce qui s'est passé après, rien à voir. Et moi, je suis quelqu'un de hyper curieux de base sur tous les sujets, je me suis dit, j'ai envie de découvrir autre chose. Et le Canada, je crois que c'est le deuxième pays le plus grand du monde. Et je me dis, j'ai tout le reste de ma vie pour le visiter, pour faire plein de trucs, ça qui est chouette. Tu vois que la France, c'est minuscule, la France. T'en fais vite le tour quand même. Et j'ai quand même beaucoup déménagé en France. En vrai, j'ai quitté la France, je devais avoir 21, 22 ans.
En fait, peu importe où t'aurais été, t'aurais kiffé voyager. En fait, c'est comme tu as dit, c'est pas que t'aimais pas où t'étais ou que t'aimais pas ci ou
ça.
Quoi.
Puis j'ai déjà vécu
c'est juste
dans...
parti sur « je veux aller voir des nouveaux trucs, je veux aller voir des nouveaux
trucs ». J'ai vécu dans toute la France, j'ai vu toute la France. Moi, j'ai déménagé une vingtaine de fois en France.
C'est toi qui me donne tout le temps envie d'aller en France. À chaque fois, tu me dis « oh, là, il y a ci ».
Ouais, j'ai connu toutes les régions, j'ai tout vu, tu vois.
À chaque fois que je veux aller en France, je dis « putain, je me rappelle, Valentin, il m'a dit ça sur la France, Valentin, il m'a dit ça ».
Tu sais, la vie, c'est comme quand t'es un gamer. Une fois que t'as fini un jeu, tu passes à un autre, tu vois, t'as fait tout le jeu, t'as fait toutes les quêtes, tu l'as fini à 100%.
Bonne chance pour finir le Canada.
Il faut un autre jeu. Ouais, il faudra plusieurs vies, mais c'est pas avec les cryogénisations et tout.
Parce que moi, j'ai spawn ici, là, dans ce jeu-là, puis je suis genre à 2% de le compléter.
Ouais, mais ça qui est fou, c'est que je connais beaucoup, beaucoup de personnes au Québec, que ce soit des Québécois ou des expatriés, ou qui me disent qu'ils n'ont pas tant que ça visité le Canada. Et c'est fou que quand tu regardes des reportages, des émissions ou sur Internet, il y a des paysages mais tellement incroyables et changeants au Canada. Tu as autant de montagnes que de lacs. T'as autant de montagnes plus plaines, genre forêt, que des montagnes enneigées.
Ouais, complètement.
T'as des endroits hyper rocailleux, genre le Yukon, c'est vachement un peu sauvage comme terre et tout. Mm-hmm. Tu sais, c'est un pays qui est forcément tellement vaste que c'est forcément rempli de paysages extrêmement différents. Et c'est ça qui est vachement intéressant. Bah, quand tu vis dans un grand pays, je pense que les mecs qui habitent en Russie doivent être un peu pareils, ou même aux États-Unis, c'est que t'es dans un pays que tu peux visiter et admettons, tu dis bah, je pars dans un road trip de 6 mois. Bah, en 6 mois, c'est tous les jours un paysage différent. C'est ça qui est vachement chouette, quoi.
Mais aussi, malheureusement, on est souvent porté à vouloir aller dans un autre pays que le nôtre parce qu'il y a toujours le petit effet nouveau ou genre exotique.
C'est ça.
T'sais, moi, j'ai toujours été plus porté à sortir du Canada, à aller à Cuba ou aller en Europe parce que c'est nouveau. Il y a un petit côté vraiment exotique. Mais c'est vrai que
la
c'est
France,
important.
On est un pays exotique.
Ben, pour un Québécois, c'est très exotique. Il n'y a rien à voir. C'est tellement vieux, il y a tellement d'histoires, de culture, de la gastronomie, des musées, tout ça.
Il y a beaucoup de Québécois, quand je parle avec eux, qui sont hyper intéressés par même l'Europe en général, qui sont hyper curieux et tout. Tu sais, les gens, ils croient que tous les Européens, ils veulent venir visiter le Canada, mais l'inverse est aussi vrai.
Complètement.
C'est juste que l'être humain, il est naturellement curieux et a envie de découvrir d'autres choses. Donc,
oui, c'est sûr.
Puis eux, je pense, c'est l'effet inverse. On est l'autre bout de l'océan, puis aussi, ils veulent voir c'est quoi l'autre bout de l'océan. Donc,
c'est ça, exact. Mais parmi l'exploration du monde, c'est important aussi de connecter avec ses racines, puis aussi de donner une chance à son pays. Moi, c'est sûr que j'aimerais éventuellement visiter le reste du Canada. Je commence à l'apprécier, mais un peu plus jeune, je respectais pas trop mon propre pays. Je pense que tout le monde passe par là.
Canada, c'est extrêmement vaste. Ça prendrait du temps de le visiter.
Complètement.
Je pense soit tu as beaucoup d'argent de côté et beaucoup de temps devant toi. Tu te dis, je prends une année pour le visiter au complet. Soit tu le fais par étapes parce que c'est extrêmement vaste.
Juste le Québec. Faut que je commence par le Québec. Parce que c'est tellement
le
grand.
Le Québec,
même pas
c'est combien de fois plus grand que la France? Mais je sais pas combien, mais de 4 fois la France.
Ouais, je pense
4
fois.
C'est énorme, le Québec.
4 fois, ouais.
C'est énorme. Que la France, tu vas du point le plus au nord au point le plus au sud en voiture, ça te prend entre 11 et 13 heures de route, on va dire 12 heures environ.
Ah ouais.
Que le Québec, du point le plus au nord au point le plus au sud, t'as genre peut-être 24 heures, mais peut-être même plus, je sais pas.
C'est
gigantesque, le Québec. Et tu sais, on parlait du Canada, des paysages vastes et tout, mais rien que le Québec, il y a des paysages hyper vastes aussi au Québec. Sans sortir du Québec, on peut quand même découvrir énormément de choses différentes. Et tous ceux qui ont une vue franco-française, genre la France qui est découpée en régions, chaque région, ils ont un peu leur manière de parler, leurs accents, le Québec, c'est pareil aussi. Au nord du Québec, ils vont pas forcément avoir toujours les mêmes expressions ou même le même accent. C'est comme partout dans le monde, en fait. Et ça aussi, c'est hyper intéressant de découvrir différentes cultures et ce genre de choses. Et, et par contre, ce qui est hyper intéressant aussi au Québec, c'est que tu sais ce que tu apprends en géographie, que dans tel nord du pays, ils sont développés dans tel truc parce que géographiquement, c'était plus propice, genre, je sais pas, la culture des arbres, des trucs comme ça. C'est vachement plus vrai au Canada. Je trouve que tu as des endroits qui sont hyper précis dans certains types de travail ou qui sont réputés pour certaines choses au Canada, par exemple.
Ouais, complètement.
Tu as vraiment des régions qui sont réputées, je sais pas, pour la chasse, pour le travail du bois. Mm-hmm. J'aime bien ce côté un peu rustique et classique, tu vois. T'as vraiment, t'as une diversité, mais t'as quand même des spécialisations, et ça qui est intéressant d'avoir un mix des deux.
On a plein de monde qui va justement nous donner son ressenti sur le sujet. C'est drôle parce que justement, il y a Ray tout à l'heure qui va nous parler un petit peu plus du côté des études parce que lui étudie ici. Avant, il était en France et maintenant il étudie ici en neurosciences. Il étudie en neurosciences.
Le neuroscientifique.
Il va falloir que tu viennes nous parler du cerveau là après. Parce que je l'avais dit au début, on va parler du Canada, mais après on va parler du cerveau.
C'est Jimmy Neutron.
Donc tout à l'heure, Jimmy là, tu vas venir nous parler des études, Canada et tout, et du cerveau. Et en plus de ça, viens gros. Viens, fais le tour, t'inquiète, fais
nous
comme chez toi.
Nous allons découper le cerveau de cet homme.
On a un micro, fais comme chez toi. Je te laisse un micro, merci. Un casque. Wow. Tiens, hop, nickel. Bon, je te laisse faire. Moi j'ai pris le micro.
Vas-y, tiens-le bien prêt.
Yes. Bienvenue, monsieur.
Bah, écoute, merci beaucoup. Hein.
Aujourd'hui, on reçoit le magnifique Anonymal qui est en voyage.
Elle est là, la caméra, là.
Au Québec.
On va l'installer, mais juste pour dire coucou. Tout à l'heure, je lui ai proposé de venir s'asseoir avec nous pour qu'on parle. Ça,
ah oui, bien sûr, bien
sûr. Après une petite pause, mais je voulais qu'on dise bonjour. C'est parfait. Hey, ça va être trop cool. Aujourd'hui, le podcast, il est freestyle. Vas-y, je te reprends le micro.
J'avoue, c'est la roue libre complète.
installe-toi, fais comme chez toi, prends place et puis...
Ce serait un bon nom de podcast, ça, Nabil en roue libre. Non, ça fait un peu plagiat, non?
J'avoue, bonne idée.
Ah ouais, dédicace à mon idole, Zakaki.
Fnac Darty.
Zakaki.
Et ouais. Du coup, on va s'attirer des ennemis avec ça.
Non, Zak, il va nous casser en deux.
Mon chat, il s'appelle Zak Nani maintenant.
Sérieux?
Ouais.
Il change de nom tous les trois semaines, le
non,
chat.
Non, ça y est, c'est son nom officiel maintenant, c'est Zak Nani. Tout le monde respecte mon chat, son nom.
Au début, je l'ai connu, il s'appelait comment? Fantôme? Non.
Non, au début, Grisaille. Ça s'appelait Grisaille.
Grisaille.
Ouais.
Après, c'était El Gato.
El Gato, ouais.
C'est toujours El Gato.
Non, c'est pas El Gato, Benji.
Oui, El Gato.
Bon, vas-y, il y a quelqu'un d'autre qui nous... Benji, viens, vu qu'on est en freestyle, viens dire bonjour toi aussi à la
en
caméra.
En plus, il y a le hoodie qui va vraiment avec
le
thème.
Ah ouais, en fait, là, vous allez voir la tenue traditionnelle des bûcherons canadiens.
Ah, le gros redneck.
Ah, parle bien, toi, là. regarde-le, là, zut.
Monte ton hoodie un peu, là, Benji.
Ça, c'est notre gars
Canada,
sur Benji à la caméra.
Regardez-moi.
Avec son gros hoodie. Tourne-toi encore plus ta caméra.
La chemise carottée.
Ah ouais. Non, il n'y a rien dans le dos, gros. Regardez, voilà. C'est zut. Il y a plein de monde qui nous dit il est où Taos? Il est où Benji? Bah, Benji, il est Al.
Il coupe du bois.
Non.
Laisse-le tranquille, là, sinon il va te mettre une grosse claque, là.
Mais peut-être un jour, elle va en conduire des camions.
Ah ouais, des gros camions, ouais, pour livrer des gros chargements de bois. Yeah, yeah, yeah.
Ah, comme dans Spin Tires.
Exactement, à
l'ancienne. Dans Boo.
Alors, ça devient un petit peu trop geek à mon goût, là.
J'avoue, trop de références, trop niche.
Donc, parfait, bah écoute, ça nous situe pas mal au niveau de tout ça. Est-ce que t'aurais des... Comment dire? S'il y avait des trucs à refaire... Que tu aurais refait différemment, je sais que c'est la question de base, mais juste, s'il y a des petites erreurs à pas commettre quand on est PVTiste.
Ouais, ou peu importe.
Ouais,
bah, déjà,
quand on bouge ou quoi.
J'ai pas vraiment fait d'erreur, mais si je devais donner des règles hyper importantes, c'est respecter les règles. S'assurer que vous êtes bien dans le cadre de votre visa, que vous faites pas de bêtises, que vous avez rien à vous reprocher. Si vous faites genre. Ah, j'ai oublié de mettre ce papier dans mon dossier. Ils vont vous le réclamer. Donc, si vous avez des casseroles cachées derrière, bah, soit vous les fournissez, soit vous abandonnez votre idée de venir au Canada.
Non, je vois ce que tu veux dire. C'est carré, quoi. Ok. Mais il n'y a pas vraiment de secret ou quoi. Mais une fois
non,
que.
Juste...
Mais je voulais dire plus au niveau, une fois que tu étais là, une fois que tu étais arrivé ici. Parce que la démarche, elle est carrée.
En vrai, alors par contre, là, on va parler plus niveau.
Tu sais, quand tu es arrivé, trouver un appart, l'assurance, tu sais, il faut prendre une assurance pour venir ici.
Ouais.
Ça peut coûter.
Assurance voyage obligatoire.
Ça peut coûter des milliers d'euros pour plusieurs mois.
Il y a quand
assurance.
Même beaucoup de compagnies d'assurance en France qui peuvent te proposer une extension pour le voyage à l'étranger. Tu as aussi des compagnies d'assurance spécialisées pour ce genre de choses. Et sur le site extrêmement bien fait, que je vous ai recommandé tout à l'heure, pvtiste.net, il y a des sites recommandés avec des assurances spécialisées pour les personnes qui font des PVT, avec des sites communautaires pour les personnes qui font du PVT pour trouver un travail, pour trouver un logement, avec des guides sur les 10 choses à savoir quand on est français et qu'on arrive au Canada. C'est hyper bien fait. Donc pour tout ce qui est vraiment les trucs un peu techniques comme ça, vraiment internet c'est votre meilleur ami. Il y a vraiment des forums spécialisés hyper bien détaillés avec des comparatifs. Puis ce qui est bien, c'est que c'est communautaire, donc c'est les gens qui donnent leur avis. Donc il y a des gens qui vont vraiment vous expliquer comme si c'était votre pote qui essaie de vous expliquer un truc pour que ce soit clair, qui va essayer de vous mettre en garde contre les petites erreurs qu'on pourrait faire et tout. C'est, tu sais, c'est vachement friendly comme truc.
C'est propre. Bon, bah finalement, moi je me disais genre, est-ce que c'est pas galère ou quoi? Finalement, c'est le plus gros challenge reste finalement dans évidemment il y a les finances. Le PVT, on n'a pas situé à peu près combien ça peut coûter, parce que autant la résidence,
je crois que c'est
coûter...
entre 4 et 800, un truc comme ça. Ça dépend après si tu fais plusieurs demandes.
Ouais, ça dépend des dossiers. Encore une fois, comme tu as dit, dépendant
après,
de ce qu'il faut que
ouais,
tu
ouais, ça après, il y a des papiers comme si le truc biométrique qui s'est rajouté récemment, bah c'est forcément des frais en plus.
C'est con, mais il y a des gens qui ont des passeports, d'autres qui en ont pas.
C'est ça. Après, voilà, s'il faut rajouter un passeport. Après, les frais, ça inclut pas les billets d'avion, forcément.
Ouais.
Plein de trucs comme ça.
Puis y en a. En fait, ça dépend aussi. Il y en a qui me disent. Des fois, ils me demandent, ils me disent, ouais, Nabil, est-ce que si je prévois 10 000 euros, c'est bon? Est-ce que si je prévois tant d'euros, c'est bon? Est-ce que si je prévois tant d'euros, c'est bon? Mais en fait, il y en a aussi des fois que je vois juste venir payer les frais, faire ce qu'il
c'est
faut.
C'est ça. Après, l'argent nécessaire, ça va dépendre, premièrement, de. Comment tu veux venir au Canada? Est-ce que c'est par visa de visiteur? Est-ce que c'est par PVT? Tout ça va influer sur les finances de l'argent dont tu auras besoin. Après, ça va aussi dépendre de est-ce que tu veux rester une semaine à Montréal et visiter Montréal. Bah, ce sera pas le même que si tu veux passer une semaine à visiter tout le Québec en une semaine, ce qui est faisable aussi, tu vois. C'est pas les mêmes frais. Donc, en fonction de, du type de visa que tu veux, de ce que tu comptes faire, le budget à prévoir, il sera pas forcément le même. Là, encore une fois, le mieux, je pense, c'est de s'enligner vers des sites communautaires ou des gens qui ont déjà fait ça.
Non, mais côté administratif, c'est ça, c'est quelques centaines d'euros, t'as dit, dépendance.
Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est quelques centaines d'euros, rien que pour les papiers administratifs.
Ouais, c'est ça. C'est
plus ou moins, ouais. Ça peut varier.
Ça peut varier, puis comme. Ouais, mais
ça peut être beaucoup moins aussi. Hein.
Non, mais pour nous situer à peu près 400 euros, je trouve que c'est un bon spot. Ouais. Vite fait, 500 euros, 600 euros. Après, comme on a dit au tout début, le billet d'avion, si tu viens en haute saison, tu peux payer 900 000 euros. Si tu viens en basse saison, tu peux payer tant.
Moi, pour mon cas, le plus cher que j'ai payé, c'était 1200. Et le moins cher que j'ai payé, c'était 450 en euros.
En euros, ouais. D'accord, 50% plus pour
de
avoir
la 400 à 1200, c'est trois fois le prix du billet. Quand
ouais,
même.
Ouais, ça change énormément d'un billet à l'autre. Yes. Et après ça, pareil, il y en a qui préfèrent se prévoir 12 mois de loyer, donc ils ramènent 10 000 euros avec eux d'économie.
C'est ça.
Il y en a d'autres qui ramènent juste, ils disent bah tu sais quoi, j'aurai de quoi payer 2-3 mois de loyer, puis je vais me trouver un taf là-bas pour payer le reste.
C'est ça, c'est aussi l'avantage du PVT, c'est d'économie, ça passe, et tu peux travailler pour amortir les frais, pour avoir un peu d'income.
Exact,
et de,
exact. Voilà. J'ai vu des gens qui ont beaucoup d'économie avant de venir, d'autres qui en ont beaucoup moins.
Bah, c'est aussi ça qui fait le succès du PVT, c'est que ça donne une liberté incroyable. Tu peux et visiter ce que tu veux et travailler. Donc ouais. C'est ça qui est vachement chouette aussi.
Yes. C'est pas comme si tu partais en voyage et que tu devais vivre sur que des économies.
C'est ça, c'est ça.
T'arrives ici, tu peux postuler pour n'importe quel taf au salaire minimum là et tu t'y mets et tu bosses.
Forcément. Y a pas des limites de travail avec le PVT, genre un maximum d'heures par semaine?
Alors, je suis pas certain de tout ce que je vais dire. Le nombre d'heures par semaine, je sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il me semble. Dernière nouvelle, c'est que les Français, ils peuvent avoir un PVT qui va durer 2 ans maximum. Ce n'est pas renouvelable. Votre PVT, il a une durée maximum.
Ouais, c'est
elle
vrai,
pas
on m'a dit ça.
Extensible.
Ouais.
Okay. Et il me semble que pour les Belges, c'est en revanche 1 an maximum. Après, si vous voulez encore ce genre de détails, différence français-belge, parce que c'est un peu les seuls que j'ai un peu checké, le nombre de personnes invitées pour la France, c'est pas le même nombre de personnes invitées pour la Belgique. Chaque personne de chaque pays, ils ont chacun leur quota.
Valentin.
Oui.
On parle très bien du Québec, du Canada depuis tantôt.
Oui.
Mais je veux savoir, selon toi, c'est quoi le côté obscur? Quelles sont les choses que t'aimes un peu moins ou que t'apprécies pas autant? Ou des trucs comme ça qu'il faut prendre en compte en venant ici?
Ok. C'est con ce que je vais dire, mais moi, quand j'étais pas là, avant que j'arrive, j'étais pas là. Alors, je sais pas ce qu'on vous a fait.
Voilà,
non, mais je sais pas ce qu'on vous a fait, les Français, là. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de gens qui ont beaucoup de préjugés négatifs sur les Français. Je sais qu'on a la réputation d'avoir une grande gueule, d'avoir un peu de caractère et tout, et parfois d'être un peu impoli. Mais dites-vous que... Non, mais c'est comme tout. Il y a des clichés, tu vois. C'est comme en France, on a des clichés sur les Belges, les Suisses, tout comme les Belges ont des clichés sur les Français et n'importe quoi, tu vois. C'est des clichés. C'est pas parce qu'un mec, tu dis, oh, tu viens de là, donc... Genre, les gars... Calmez-vous. Genre moi, les premiers boulots que j'ai eus, j'ai des boss, ils étaient super méfiants et tout.
En plus, toi, t'as travaillé que dans le service à la clientèle.
Ouais, je faisais que du service, j'étais vraiment au contact des personnes, tu vois. Donc là, c'est vraiment le genre de métier où, bah, justement, tu peux pas te permettre de faire ce qu'on reproche aux clichés français, à savoir avoir une grande gueule et manquer de respect aux gens et tout, bien au contraire. Genre là, récemment, pour le dernier taf que j'ai eu, mon boss, bon, il aime bien me charrier, mais tu vois, il me dit « Oh, encore un putain de français et tout, il va me faire chier de soi. » Pas méchamment, mais il m'a dit clairement au début, il avait un petit a priori, tu vois. Parce que voilà, c'est comme partout, les clichés, ils ont la vie dure, tu vois. Il m'a dit, j'avais un petit a priori, mais tu sais, après, au bout de 2 semaines, tu dis, ouais, c'est un gars normal, quoi. Il est chill, il n'y a pas de problème. Donc, en vrai, c'est juste un peu ça que des fois, juste un peu gênant. Mais après, j'ai quand même quelquefois eu des gens... Parce que, comme on disait en début de podcast, il y a quand même de plus en plus de Français, de francophones, européens qui veulent s'installer au Canada. On en voit de plus en plus.
Ouais.
Et récemment, il y a de plus en plus de Québécois qui te font des trucs genre « Gars, t'as pas envie de retourner chez toi ?» T'sais, des fois, ils te font des petites remarques un peu blessantes, mais juste tu fais pas attention.
Ouais,
c'est pas grave, il y a pire dans la vie. Hein.
Ouais, je vois ce que tu veux dire.
Ça, je pense que c'est le problème. De...
Non, mais il y a des cons partout, que ce soit au Québec, en France.
C'est ça, dès que t'émigres à un endroit...
Ouais,
C'est des choses.
Après, dans tous les pays, l'immigration, ça a toujours un peu un côté négatif. Ouais. Tu vois, t'immigres dans un pays, c'est toujours un peu mal vu de certaines personnes. Laisse-les parler, c'est pas grave.
Mais en vrai, c'est grave cool. Tu découvres un nouveau pays, comme tu disais, comme tu racontais là. Tu découvres une nouvelle culture, une nouvelle façon de vivre.
C'est ça, moi j'ai quitté voyager. Mon pays, je découvre plein de trucs. Moi, je kiffe ma vie.
Ouais, ouais, c'est trop stylé.
Je m'en fous du reste, tu vois.
Yeah, yeah. Very nice.
C'est tout, vraiment?
Qu'est-ce que j'aime
le
moins bien?
Le froid, gros, faut que tu parles du froid parce que.
Alors,
moi, il y a quelqu'un qui m'a demandé.
Comment t'as vécu ça, toi?
Oui, il y a quelqu'un qui a demandé carrément, il a dit j'aimerais ça venir en hiver, mais est-ce que le froid, ça va pas trop me déprimer? Ouais. Le fait d'être dans un pays étranger, d'être à moins 30 degrés, avec des tempêtes de neige, je vois pas, 2 mètres de moi. Bon, là, si tu es en train de rajouter moi, tu vois, je suis en train de rajouter ma frustration personnelle.
Tu parles de gens, gens qui ont posé des questions, juste clôturées par rapport à avant, les gens, enfin, je parlais des a priori et tout, c'est. Parce que tout à l'heure, on checkait les questions Twitter, il y a un mec qui posait « Est-ce que c'est mal vu dans le monde pro, les Français et tout ?» C'est « Les gars, peu importe les préjugés qu'on va avoir envers vous, les Québécois, c'est pas des idiots. Si vous vous montrez de manière respectueuse, les gens, ils vont finir par vous respecter. »
J'avais vu la
question,
il t'a dit « Est-ce que, ouais, est-ce que dans le milieu du travail, les Français sont bien vus ?»
C'est ça, c'est genre... Et moi, je parle d'expérience. Peu importe les préjugés que les gens ils vont avoir sur toi, peu importe la raison pour laquelle ils ont des préjugés, du moment que t'es clean, c'est les gens finalement, c'est pas des débiles mentaux, ils vont bien voir que t'es cool, puis ça va passer.
Yeah, yeah. Anyway. Good.
Du coup, ouais, par rapport à l'hiver, en vrai, moi, ça va faire cliché. Quand j'étais ado, j'adorais regarder les émissions de Bear Grylls, les chaînes de télé Nature et Découverte où tu voyais des mecs en Antarctique avec les huskies et tout. Genre le mec, il marche sur la glace, il fait moins 12 000, il y a juste lui et ses quatre chiens, il y a juste personne à 12 000 km alentour. Je fais, c'est giga stylé. Même les déserts, tu sais, moi j'ai toujours aimé les trucs un peu atypiques, extrêmes, la jungle, le désert et tout.
Ouais, ouais.
Et du coup, c'est
ça l'aventure.
C'est ça, ça fait un peu l'aventure. En vrai, t'es dans un fucking centre-ville. T'es à Montréal au lieu d'être à Paris. Il fait moins 30 au lieu de faire 10 degrés. Tu sais, t'es quand même dans une ville, juste la température qui change. Y a rien d'aventure là-dedans, mais c'est quand même un changement qui cogne.
Non,
tu vois,
en vrai, la chute de température. Je comprends ce que tu veux dire, mais en même temps, je confirme aussi le fait que c'est un gros changement, mec.
Genre, tu vois, moi, ce qui me faisait rêver au Canada, c'est de voir les émissions, les mecs qui allaient sur les glaces et tout dans le nord et tout. Moi, j'ai pas été encore, tu vois. J'étais à Montréal pour l'instant. Et...
Mais non. Tu peux le faire, pas besoin d'aller loin pour aller sur la glace.
Ouais,
ou quoi,
je sais, il y a quand même plein de trucs. Mais en vrai, au niveau de l'hiver, moi. Je sais plus, parce que moi à la base j'étais arrivé en été, automne, et je crois que c'est à toi Nabil que j'avais parlé. Tu m'avais dit en vrai, le premier hiver, du moment que t'as un bon manteau, ça passe. Du coup, quand je suis retourné en France, parce que forcément, l'hiver ici il fait froid, les manteaux ici c'est un business, tu vois. Donc si t'es français, que tu veux t'acheter un manteau, achète-le en France. Le même manteau il va te coûter beaucoup moins cher. Je me suis acheté un manteau North Face vachement giga cool et tout. Je crois qu'en France je l'ai payé à Decathlon, Go Sport, peu importe, je l'ai payé genre 200€. Alors qu'ici, le même, il se vend genre $500 plus les taxes, tu vois. Ouais. Le même.
Ouais, c'est drôle, ça fait un fact. Tiens, on parlait des plus les taxes.
Oui, c'est vrai.
C'est drôle,
j'ai oublié.
Plus les taxes, tu vois.
Je suis trop habitué d'être ici, j'oublie.
Moi, c'est mon travail de podcaster. Le plus les taxes, c'est très intéressant parce que justement, sur la plupart des produits ici au Québec, une autre particularité, c'est que tu vas acheter, je sais pas moi, n'importe quoi qui n'est pas une denrée, comment ils appellent ça, vitale, genre de la bouffe.
Alimentaire,
truc ouais, n'importe
ça,
quoi qui n'est pas une denrée alimentaire ou quoi. Bah, t'as un 15% qui est ajouté.
La TVA n'est pas inclus sur le prix affiché.
Exactement, et t'as un 15% qui est ajouté à la fin à la caisse. Mmh. Et ça, c'est un truc qui surprend tout le temps.
Si t'achètes un paquet de chewing-gum à 1$, bah, la caisse, elle va dire 1,15$ parce que les prix sont affichés hors taxe.
C'est ça, des fois, tu vas acheter une carte graphique, tu te dis elle est à 450. Ah, ok, je la prends.
C'est ça, il y a beaucoup de
choses. Mais en fait, elle est à 578.
Dans le jeu vidéo, genre, oh, la PlayStation aux États-Unis, elle est annoncée 400$. Nous, on la paye 400€, taux de change, nanana. Bah, c'est $400 plus taxe parce que. On va 460, revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est les États-Unis comme le Canada, c'est des provinces, donc toutes les provinces, toutes les régions, si vous voulez, des États-Unis et du Canada, ils n'ont pas toutes les mêmes taxes.
Les États.
Donc ici au Québec, c'est environ 15% taxes, mais il y a autant de provinces au Canada qui ont 5%,
ouais,
20%.
C'est vrai.
Et tout ça, bah, c'est établi en fonction des besoins financiers de la province et aussi de la qualité de vie des gens qui vivent dans la dite province, donc ça varie beaucoup. Voilà pourquoi ce n'est pas affiché taxes incluses les prix.
C'est ça, mais c'est quelque chose qui pourrait vraiment surprendre au début quelqu'un qui arrive et qui dit « mais qu'est-ce que c'est quoi ?» Plein de potes ont déjà été surpris face à ça. Un autre truc qui surprend tout le temps, ça c'est une règle qui est établie, qui est claire, nette et précise, il n'y a pas besoin d'en parler pendant 3 ans et demi, mais c'est une question que tous les touristes ou les gens qui visitent le Québec, ou en général l'Amérique du Nord, parce que je pense que ce que je vais dire s'applique à 90% de l'Amérique du Nord, donc que ce soit le Canada ou les États-Unis, à peu près tous les endroits ça s'applique, c'est les pourboires. tout le temps en s'attendant à ce que tu te donnes un pourboire de 15%. Il n'y a pas besoin d'en parler pendant 3 ans et demi. Peu importe où tu vas manger, généralement, où il y a un service, donc il y a un serveur ou une serveuse qui vient te servir pendant plusieurs repas ou quoi, ou même il y a un petit service, ils s'attendent à ce que tu laisses 15% et ça arrive à
minimum.
Minimum, bah c'est eux ils disent de 15 à 20%, 25% ouais. si t'es généreux, mais
bah, tu laisses plus si tu veux, mais minimum mais tu laisses 15% ouais, voilà. respect quoi.
Mais pourquoi je dis minimum 15%? Parce qu'il y en a des fois qui vont dire oh moi je paye pas 15% et tu te fais faire la remarque.
Mais c'est drôle que tu parles ça parce qu'hier soir je parlais à Saudélire, le streamer qui était venu à Montréal avec
le
Gary
gars
et tout,
ouais.
et ils m'ont dit la première fois ils sont partis d'un bar au je sais pas quoi sans donner de pourboire, et ils m'ont dit oh, mais c'est pour ça. J'avais l'impression que tout le monde nous regardait chelou quand on est parti et tout.
Les bars, t'as vu, c'est on te regarde bizarre en mode ouais, et lui, il a pas typé.
En fait,
pas
ce qu'il faut savoir, c'est que bah, au Québec comme en France, il y a un salaire minimum, mais il y a certains métiers comme certains types de serveurs, ils sont payés en dessous du salaire minimum parce qu'on sait qu'ils vont avoir un pourboire en plus.
Ouais.
Donc le serveur, déjà qu'il est payé en dessous du salaire minimum, si vous lui donnez pas un pourboire, bah pour la qualité de son service, pour le remercier, bah c'est pas cool.
Non mais en fait c'est un système de merde. Les serveurs, serveuses n'y sont absolument pour rien parce que, comme tu viens de l'expliquer, c'est que la plupart du temps, enfin pas la plupart du temps, mais des fois c'est les employeurs qui payent pas assez leurs employés. Ils leur disent ouais, je te paye 5 balles et après bon, bah, t'iras faire tes pourboires là, t'auras juste à offrir un bon service. Et pareil aux États-Unis, ils ont le même problème. Il y a plein d'endroits aux États-Unis où les gens commencent à dire ouais, j'en ai marre, c'est obligatoire, intégrez-le dans vos prix, commencez à bien payer vos employés, commencez à faire quelque chose. Mais ouais, donc clairement, c'est comme tu as dit, c'est une petite faille dans le délire. Ceci étant dit, juste réflexe, quand tu arrives au Québec, tu es en train de marcher, tu rentres dans un resto, tu manges entrée, plat, dessert, ou même tu manges entrée, plat.
Mais surtout qu'au Québec, dans tous les métiers où il y a du service à la clientèle, que ce soit un magasin, les bars, ça se voit vraiment que les gens, ils ont à cœur la plupart du temps de bien te servir. Les gens, ils sont polis et tout. Et ça, c'est vraiment un truc qu'on remarque vraiment quand on vient d'Europe et qu'on arrive au Québec. C'est que tu vois dans les magasins que les gens, ils ont à cœur de bien te servir. Donc au début, ça peut sembler un peu perturbant. Tu te dis qu'est-ce qu'il me veut, lui et tout. Tu sais, quand tu vas dans un magasin de vêtements, tu checkes le rayon, puis la meuf, elle vient. Bonjour, je peux vous aider.
Tellement.
Tu sais, c'est pas aussi souvent que t'as ça en France. T'as envie de lui dire, bah non, laisse-moi tranquille, je check des vêtements. Genre, tu crois que je fais quoi? Je fais un golf ou quoi? Mais non, mais tu sais, ici, les gens, ils veulent vraiment s'assurer que t'aies pas de questions à poser. Genre, ah, peut-être, tu veux savoir c'est où l'aller pour les chaussettes. Genre, tu sais, les gens, ils veulent vraiment s'assurer
c'est vrai,
que
pour le coup, ça,
tes
c'est
questions
un truc
soient répondues et
ouais,
tout.
C'est un truc que je changerais contre rien, ça. Peu importe où je vais dans le monde, il y a des endroits où il y a le service, c'est incroyable. Hein, c'est pas le seul endroit au monde, c'est pas la
toujours,
terre.
Il y a toujours.
C'est pas la terre
toujours,
promise. Mais c'est vrai que des fois, tu vas à des endroits et tu te dis putain, ça manque à la maison juste que tu rentres en te disant bonjour, comment
ouais,
je peux vous aider? Ou alors, allez, chercher quelque chose. Ou alors,
donc, ça peut sembler perturbant au début, mais c'est juste naturel. Les gens, ils ont à cœur de bien te servir.
Je sais pas si c'est naturel, moi je pense plus que c'est requis par.
C'est un formatage.
Ouais,
pour, l'employeur. Pour faire une belle phrase, c'est soit naturel, soit culturel.
C'est naturellement formaté.
Ouais.
c'est ça.
Mais ouais, je comprends. Mais j'ai pensé au Japon justement quand je disais qu'il y avait d'autres endroits où le service pouvait être vraiment cool. Mais. Non, c'est vrai que pour l'hiver, personnellement, pareil, parce que je parle pas trop, c'était toi notre spécialiste, étant donné que la majorité de notre audience provient de l'Europe. Mais j'ajouterai ma petite pierre à l'édifice en tant qu'immigré. Dis-moi.
L'hiver, no joke, hein. Si vous êtes bien habillé, l'hiver, c'est de l'eau. Le seul truc chiant, c'est quand il y a de la neige, tu peux pas te déplacer, ni à pied, ni en voiture. Et forcément, quand il fait moins 30, tu vas pas te taper une balade de 20 minutes dehors parce que t'as les mains qui gèlent.
Je valide pas ce qu'il dit, je réfute tout ce qu'il vient de dire. Je réfute ce qu'il vient de dire parce que.
Non, mais les gens, en vrai, les gens ils dramatisent de ouf sur l'hiver. Oui, il fait froid, c'est fucking moins 30, mais genre les gens ils meurent pas l'hiver. Tu sais, au Québec, les gens, il y a des déneigeuses pour les routes, il y a des trucs prévus, tu vois. C'est un pays, ils découvrent pas la neige, c'est pas une technologie la neige. Ça fait des centaines d'années qu'il y a de la neige au Canada.
Non, mais c'est ça.
Et les infrastructures, mais c'est sûr, en soi, c'est giga froid, mais tu vas pas te promener à Walp en plein hiver, forcément.
Pour visualiser un petit peu ce à quoi ça ressemble. Bah souvent les gens sont surpris que l'été il fasse chaud. Le soleil l'été,
il fait giga chaud l'été.
Il fait 27, 28 degrés, 29
degrés. Le premier été que j'ai eu, il a fait extrêmement chaud. Il a fait 35, 36
ouais.
Et le premier hiver que j'ai fait, c'était un des pires hivers. Il a fait genre moins 43, j'ai eu les deux extrêmes la même année.
Et du coup, big up Greta. Et non, plus sérieusement, ce que j'allais dire par rapport à la météo, c'est quoi juste pour que les gens puissent visualiser, l'infrastructure dont parle Valentin est tellement grande que dès qu'il neige un petit peu, t'as 14 000 camions à tous les gros coins de rue. Même à Montréal, ça va vite fait. Hein.
Ouais,
si tu sors un peu des grands axes à Montréal, ça va
après,
pas.
Après, oublie pas que en campagne, Il y a du chemin entre la porte de la maison et la route. Faut que tu déneiges chez toi si tu veux sortir de chez toi.
Non, je sais bien. Mais là où je veux en venir, c'est qu'il y a les infrastructures, tu vois. Tu peux, par exemple, moi je sais que si t'as une maison, tu peux payer 250 dollars par année.
C'est pas la France où il y a 2 cm de neige, les écoles FR, mais c'est l'apocalypse. Que va-t-on faire?
Tu peux payer 250 balles par année. Et à chaque fois qu'il neige, il y a un déneigeur qui passe devant chez toi,
qui s'occupe de ta maison.
Qui déneige tout devant chez toi et ta voiture peut se garer et rouler.
Parce que quand t'es une personne âgée de 70 ans, t'as pas que ça à faire chaque matin de déneiger ton arrière.
Combien de fois par année les écoles sont-elles fermées à cause de la neige? C'est rare, il y a genre peut-être 3 jours dans l'année, peut-être une semaine.
Ouais, c'est vraiment une grosse tempête ou quoi.
Quand il y a 7 jours, je me rappelle pas de la dernière fois qu'il y a eu 7 jours de fermeture d'école. Il y en a eu 98, crise du verglas, on est là. Mais non, sérieusement.
La crise du verglas.
Mais non.
Il y avait plus d'électricité, c'est pour ça.
Mais ouais, c'est rare, tu vois. Je sais qu'à chaque année, il y a une grosse tempête. Mais grosse tempête, là, c'est que tu vois pas à plus de 2 mètres et qu'ils peuvent pas rouler. Mais sinon, la plupart du temps, c'est des giga infrastructures. Il y a même des petites pelleteuses, là, qui marchent, enfin, qui roulent sur le trottoir avec un.
Des souffleuses.
Une petite pelle en avant, là, qui déblaye la neige sur le côté. Et non,
t'as
franchement.
T'as déjà vu des souffleuses, Valentin?
Ben oui.
Tu vois, ça, y a pas ça en France, des gens qui passent la
souffle à
neige.
Ah non, mais bah non, la souffle à neige, y a pas ça en Europe.
Qui jette la neige par derrière.
Mais faut pas leur donner les souffleuses à neige parce que les Français exagèrent tellement dès qu'il y a de neige. Les mecs, ils vont acheter une souffleuse pour une pellicule c'est de clair. Neige, tu vois. Mais si, chérie, voyons, regarde, je marche et ça se transforme en eau, ça glisse. Il faut enlever la neige. Eh chérie, t'as du gros sel.
Ah, le pire. Le sel aussi, c'est une habitude, hein. Tu sais, quand t'as un appart et que, ou que t'as des escaliers et que tu veux pas mourir durant l'hiver, le sel, c'est un petit sac que t'as devant chez toi, à l'entrée.
Ah, ça, par contre, l'hiver au Québec, tous les escaliers, c'est les pires traîtres de l'univers. Faut vraiment faire attention.
Tout le plancher, toute la terre est un danger.
Déjà, t'as une pellicule d'eau sur l'escalier qui s'est forcément changée en glace.
Et c'est en fait, chaud. Tu sais quoi?
La patinoire.
En fait, le truc aussi, c'est que tu disais un bon manteau. Il faut aussi une bonne paire de bottes.
Bottes et montantes parce que la neige, elle fait pas trop.
C'est bon, commence pas à faire le forceur, la pantalon de neige. C'est bon là.
Ouais,
classe,
en fait, ta combinaison de ski pour aller à Chamonix.
Bah, les lunettes. Très important, les lunettes.
Les lunettes parce que ça fait mal. Ouais, c'est ça. Puis le soleil qui se reflète sur la neige, ça fait mal.
C'est vrai, hein.
C'est vrai.
Tu sais que c'est pour ça que les Inuits ont les yeux bridés. Ils se sont évolués, ils se sont adaptés au soleil qui reflète sur la neige.
Non mais en vrai, le soleil sur le blanc de la neige, je trouve que ça fait giga mal aux yeux là, l'hiver.
C'est vrai,
c'est pire qu'une journée ensoleillée quand il y a de la neige et que c'est une journée ensoleillée, c'est pire qu'une journée ensoleillée parce que ça te.
C'est pour ça qu'au ski, on bronze beaucoup au ski.
Au ski, c'est vrai.
Non, en vrai, un bon manteau, des vêtements chauds, quoi, tout bêtement. Par contre, en vrai. Moins 15, ça va. Par contre, à partir de moins 20, les extrémités, ça fait extrêmement mal. Oreilles,
les mains,
protégez-vous vraiment bien les mains, les oreilles.
Protégez-vous.
Voilà.
Protégez-vous les extrémités.
Pour ceux qui fument des cigarettes, vous sortez fumer une cigarette 5 minutes, vous avez le bout des doigts qui commence à geler en l'espace de 5 minutes. Et c'est pas une blague, hein, vraiment, ça devient le
bout d'un. Ah ouais, non, il faut sortir avec des gants et tout, tu peux pas. À moins 15 et moins 20, tu fais attention.
Quand tu respires, t'as l'air froid qui te rentre dans le nez, ça te gèle l'intérieur.
Non mais pour vrai, tu fais. C'est con qui. Non mais attendez, on rigole là. Attendez. Il dit ça là, mais c'est vrai. Yo, nous on le prend pour acquis là, on est là.
C'est vrai.
Mais quand il fait 25 degrés, moins 25 degrés, pardon, et t'es en train de marcher dehors. Tu te chilles pas avec ta cigarette les mains nues comme ça pendant 15 minutes à moins 25. Et il y a des 1 mois où il peut faire moins 25 pendant 2 semaines, 3 semaines. Donc ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. C'est vrai que nous on le prend pour acquis, on est juste en mode quand tu sors, tu mets un bonnet, tu mets une écharpe, tu mets des bonnes chaussettes. Bah je parle vraiment des grosses journées d'hiver, hein, c'est rare.
J'ai jamais fait ça dans ma vie mais
ouais. La vérité moi non plus, les seules fois que je l'ai fait l'année passée, c'était avec toi quand on est allé au ski, c'est la seule fois que j'ai fait ça. Sinon en vrai, je porte des baskets Adidas en Gore-Tex,
des Gore-Tex. Quand tu marches dehors qui fait moins 30 et il y a le petit vent qui te gèle les oreilles là, c'est chaud.
Non mais plus sérieusement, je porte des baskets, un pantalon normal, donc des jogging. Qu'est-ce que je porte aussi? Un t-shirt ou un pull.
Des cheveux.
Et un manteau d'hiver, c'est tout. Et un bonnet, voilà. Un bonnet et des gants, pardon. Bon, je viens de rajouter 14 000 trucs et c'est tout, mais...
Et des chaussettes et un pantalon.
Non, mais là où je veux en venir, c'est que ça ressemble pas... C'est pas pire qu'une tenue d'hiver, au final, à Paris. Hein.
Classique.
La vérité que je vois Ilyes, par exemple, mon pote Snaku, s'habiller, il pourrait venir avec ses vêtements. Enfin, Ilyes, quand il vient
en
à Montréal...
Moi, l'hiver, j'ai mes chaussures normales. Mm-hmm. J'ai mon manteau d'hiver, par contre, je suis en jogging, tu vois.
Ouais,
jogging
aussi, ouais.
Classique.
Même les bottes, moi je sors pas tout le temps en bottes. Hein,
mais
je sors en basket.
On essaye quand même d'éviter le plus possible de sortir dehors.
C'est vrai.
Ouais.
Ça dépend pourquoi
si,
faire.
Si tu veux vraiment passer beaucoup de temps dehors, tu t'habilles convenablement. Mmh, mais c'est si juste pour te rendre à un point A ou à un point B ou en sortant rapidement.
C'est ça, alors on adapte la tenue en fonction de ce qu'on va faire.
Ouais, c'est ça, exact.
Et ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on parlait de déneigement et d'infrastructure, mais pareil, peu importe où tu rentres, c'est archi chauffé. T'as l'impression que.
Ouais, tout est chauffé.
C'est l'été et tout. C'est con à dire, mais. Moi, je me rappelle encore des premières fois où j'arrivais, j'étais dehors, j'étais là en train de me geler, en train de marcher par exemple, et là on rentre quelque part, je suis en mode ah, c'est l'été à nouveau, c'est trop bien. Mm-hmm. Ça frappe le changement comme ça au début, mais c'est le cas, peu importe où tu vas, tu fais ta journée si t'es dans un bureau, si t'es quelque part, si t'es dans ta voiture, si t'es n'importe où, tu fais ton truc quoi. Ouais. Moi, ce que je propose, les amis, maintenant qu'on a parlé de ça, ah oui, je voulais juste finir d'ailleurs par rapport à.
Yes.
Parce qu'au début, j'avais dit ouais, mon expérience d'immigrant, etc. On s'adapte au froid, puis je pense pas que ce soit vraiment quelque chose qui déprime. Je pense que c'est comme tout le défi. Comme le... Au début, on avait dit que le plus gros challenge, c'était de prendre la décision de venir. De...
Ça, c'est un truc qui se réfléchit un minimum.
Et moi, ce que je dis, c'est ça aussi, ça te suit quand t'arrives ici. Tu peux te dire, est-ce que l'hiver c'est une difficulté? Est-ce que trouver du travail c'est une difficulté? Est-ce que si c'est une difficulté? En vrai, c'est la détermination qu'il faut, c'est con à dire, mais les ressources, elles sont pas mal là. Et on en a pas trop parlé parce que le but, je voulais pas trop qu'on fasse le podcast en mode venez au Québec, vous allez voir si ça, ça, gna 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 gna. Et c'est cool parce qu'au final, on n'était pas là en train de le vendre.
C'est non,
cool.
Ça, faut se préparer, c'était se renseigner. Nice. Yeah. Par contre, pourquoi c'est à moi qu'on a demandé ce que j'ai ressenti en hiver? Alors que toi, là, tu viens du désert fucking 50 degrés.
Ouais.
Toi, l'hiver, il a dû te choquer au
mais
début.
Mais mec, moi, c'est ça dont je voulais parler. C'est là où je voulais en venir avec ma conclusion. C'est que là d'où je viens, c'était Ouargla, c'était dans le sud de l'Algérie. J'ai passé toute ma vie là-bas. Comme tu as dit, il faisait 40, 45 degrés l'été. Et c'est, l'année passée, battu le record du monde de la température la plus élevée jamais enregistrée sur Terre. je pense que c'était peut-être dans une ville habitable ou peut-être juste sur Terre. Je suis pas sûr. Ça m'étonnerait que ce soit sur Terre, mais c'est possible. Bref, Ouargla, vous verrez dans les news 63
la
degrés.
Seule fois où Ouargla a fait parler d'elle aux yeux du monde.
J'étais trop fier. One, two, three.
Non, le tram aussi, nouveau tram.
On est là, gang.
Ils ont un tramway et 50 degrés.
Il connaît. Non, mais sérieusement, 63 degrés et tout. Mais non, là où je voulais en venir, c'est que même moi, venant des températures extrêmes comme ça. J'ai apprécié le contraste, j'ai apprécié vivre les saisons, être en été, qu'il fasse chaud, que je puisse aller à la piscine et tout, peut-être des fois à la petite plage artificielle ou quoi, juste bronzer, sortir en t-shirt, en short.
C'est vrai que toi, dans le désert, sur une année, le paysage ne doit pas beaucoup changer.
Non, c'est
que ici,
c'est très
similaire. Au printemps, t'as un paysage,
mec,
un autre en été, l'automne avec les couleurs
c'est
et
ça,
l'hiver
mais
avec la neige
plus,
et tout.
J'apprécie plus l'été ici. Quand je sors, je me dis, ah putain, ça me rappelle toute ma vie, tu sais, il fait chaud et tout, il fait beau. Après, pareil, l'automne, hiver vient et je suis en mode, ah, ça change, c'est l'hiver, j'aime bien mettre mon manteau, c'est cool, je change de vêtements, je change de mode de vie et tout. C'est fun, ça casse un peu la routine, ça change, j'aime bien, moi, la diversité. Je vais au ski, je fais d'autres trucs. J'adore, tu sais, chaque hiver, on le fait, on va au chalet, t'as Jules, le chalet de Jules.
Moi, je l'ai
trop
pas
stylé.
Encore vu, son chalet.
Rah, le meilleur chalet
bientôt,
de
bientôt.
Tout le Canada, mon gars.
On va y arriver, Valentin.
Ça fait 2 ans que je lui dis un jour, je passerai. Je vais jamais passer à son chalet.
C'est trop nice, tu vas au chalet. Tu t'allonges là-bas, tu te mets sur le canapé, t'allumes la cheminée. Des fois, on se faisait des barbecues. Il y a une vidéo YouTube, elle s'appelle Le Chalet de Ouf. Si vous voulez aller voir, on l'avait fait ensemble, tu te rappelles le vlog?
Bah oui.
C'était il y a 2-3 ans, mais ouais, c'était cool. C'est le même chalet. Et franchement, c'était trop bien parce que c'est l'un des trucs qu'on peut faire l'hiver. Bref, on y reviendra. Twitch, si vous avez des questions pour nous, n'hésitez pas à les poser. On y reviendra dans quelques instants. On va se faire une petite pause et on revient tout de suite. Pareil pour les gens qui nous écoutent ou qui regardent la vidéo YouTube. Ouais, à tout de suite. 3, 4,
wouhou! Yay! Yeah.
Mic check.
1, 2, 1, 2.
Normalement, on est tous bons là.
Je suis tellement pas habitué à ça, gros. C'est super bizarre.
Tu t'es jamais entendu parler?
Jamais. Enfin, en direct, comme ça, jamais.
Ouais, c'est vrai, hein, ça fait bizarre, mec.
C'est ultra bizarre.
Et perso, en même temps, c'est agréable.
Ouais, il y a un côté.
La voix est mieux dans ce micro. Une belle voix suave.
Bah écoute, moi je m'y suis. Ça m'a pris tellement de temps de m'y habituer. D'ailleurs, les gens vont peut-être dire: hey, Valentin, il a changé de voix entre temps. C'est pas Valentin.
Il
ouais,
y a des cheveux qui ont poussé. Qu'est-ce qui s'est passé, Valentin?
Ouais.
On est plus avec Valentin, mesdames et messieurs. On est avec Anonymal entre temps. Et comme
yes.
Ça, qu'est-ce qui. Les gens, ils vont rien comprendre. Ils vont
c'est tellement improbable.
Tellement de gens chez toi, gros, t'as qui, soit.
Vous en faites pas, c'est pas le dernier invité de la soirée. C'est pas le dernier invité de l'épisode, plutôt. Mais mec, on parlait justement d'immigration, de bouger au Québec, etc. Et le fait que tu sois là, c'est vraiment incroyable parce que là, c'est la première fois que tu visites Montréal.
Ouais.
C'est la première fois que tu mets les pieds au Canada. C'est la première fois que tu vas au Québec. Et du coup, tu repars demain après un séjour de quelques jours. Et on est en train de parler du sujet, donc là, on peut avoir un avis à chaud et
à
tout,
chaud,
c'est trop cool. En plus de ça, juste avant, on va évidemment, si tu veux bien, te demander de te présenter vite fait, raconter ce
vas-y,
que tu
vas-y.
Fais. Parce que ce serait intéressant pour les personnes qui écoutent, juste pour les situer, on demande tout le temps aux gens de faire ça.
Ouais, bah alors moi, je fais des vidéos sur YouTube.
Yes.
Voilà, enchanté. Je m'appelle donc Anonymal. Je fais des vidéos sur la nouvelle technologie. J'essaie de parler en gros de manière pas hyper profonde de la technologie parce que je trouve ça.
Ça, c'est moi. Salut. Excusez-moi, c'est l'intro de tout à l'heure qui. Mais ouais, du coup, tu disais que tu faisais des vidéos tech.
Ouais, et que j'essaie de pas être hyper dans la spécificité et tout parce que je trouve ça giga chiant en vrai. Genre, ça m'intéresse pas de dire qu'une télé est 8K et qu'il y a genre. C'est relou, mec, ça intéresse personne, tu vois.
Je sais, c'est moi ça. On me le dit tout le temps en plus.
Et du coup, ouais, je sais pas, j'essaie de simplifier au max les trucs que j'ai bien envie de voir, tu vois. Genre un téléphone qui a un truc, genre une caméra pop-up quand ça venait de sortir et tout, c'est marrant de tester, tu vois.
Les trucs qui tombent, quand le téléphone il tombe, la caméra qui rentre, tout
ouais,
seul
voilà.
Et tout.
Ouais. Les trucs, genre, les petits trucs qui m'intriguent, j'aime bien les tester, tu vois.
Je vois.
Forcément les trucs les plus fat, genre. Tu sais, c'est pas de la grosse couille, tu vois.
Non, je comprends.
C'est pas... Ça m'intéresse pas de ouf. Non, juste, j'aime bien tester des petits trucs différents.
Tu sais ce que t'aimes et tu sais ce que tu cherches. Ouais, voilà. C'est cool, c'est nice. Je comprends tout à fait. J'ai toujours été intéressé aussi par la technologie, puis chacun ouais. s'intéresse à sa façon. Donc, c'est nice. T'as une chaîne YouTube où tu fais des vidéos justement ouais. sur tous ces trucs-là.
Ouais, ouais.
Comme tu l'as dit, Anonymal, ça s'écrit comme ça se dit. C'est super facile. On peut pas se tromper. Yes. On va même pas vous dire comment ça se fait. Anonymal, c'est à vous de te trouver tout seul. Mais ouais, mec, du coup, comment s'est passé ton séjour à Montréal?
Ouais, mec, trop bien. Vraiment, c'est trop cool. J'aime trop la vie, j'aime trop l'ambiance et tout. Il y a deux, trois trucs qui m'ont choqué, mais peut-être on en parlera tout à l'heure. Enfin, pas choqué, mais genre, tu sais, interpellé. Et ouais, non, vraiment, le... Je sais pas, c'est simple ici. Je t'arrive, t'es bien, quoi. Il y a un truc évident ici, t'arrives, c'est genre, les rues sont cool et tu marches et c'est bien, tu vois.
Ah, trop bien. Et derrière, il y a deux personnes derrière lui qui sont en train de faire...
Ouais.
C'est vrai.
Ouais, non, je sais pas, c'est... Je sais pas, gros, je saurais pas comment te décrire le truc, l'expérience générale. Juste, j'ai kiffé. Et je reviendrai, c'est sûr, tu vois.
Yeah, trop 100%. Bien. En plus, moi, je vais pas le dire, mais tu m'as déjà balancé une date
ouais,
et tout,
ouais.
T'es déjà chaud pour,
yes,
pour revenir et tout, c'est nice, c'est cool. Est-ce que t'as déjà pensé, enfin, pas que je veux te presser, mais parce que tout à l'heure, on en parlait avec Valentin, t'as déjà pensé à peut-être bouger ici, ou faire même, peut-être pas bouger sur le long terme, hein, genre immigrer ou quoi,
ouais,
mais juste, tu sais, un visa court terme ou quelques mois ou quoi.
Je sais pas, mec, vraiment, je kiffe la France, mais de ouf.
Ouais.
Genre, tout ce qui est bouffe et tout, genre... Incroyable, genre ah c'est cliché, tu vois. Mais
non,
la France,
c'est pas cliché, c'est la réalité.
Rien de mieux.
C'est la réalité.
Y a rien de mieux.
Ouais.
Et rien que pour ça, ça me ferait bien chier. Et aussi le fait que j'ai galéré à avoir un appart à Paris, gros. 6 mois, j'ai cherché un appart à Paris. Maintenant que je l'ai, je ne lâche plus, mec. Ouais.
Mais
c'est
tu sais que
mort.
Tu peux avoir un appart en 6 heures à Montréal. Hein.
Ouais, je sais. Mais gros, ça fout le seum, justement. C'est incroyable. Genre, je peux pas lâcher mon truc que j'ai galéré 6 mois pour prendre un appart en 8 heures ici, tu vois.
Ouais.
Non, mais en vrai. En vrai, pourquoi pas, mais là, tout de suite, non. Puis même, j'ai trop de trucs à faire à Paris, j'ai l'impression, tu vois.
Non, c'est
comme
cool.
je suis dans la tech, j'ai toutes les agences qui bossent dans la tech et tout, qui sont à Paris, c'est trop intéressant pour moi, en termes de business, d'être à Paris, tu vois.
Bien sûr, tout à fait, puis même, c'est plus pratique pour toi, tu vas pas commencer à faire des allers-retours à chaque fois que tu dois être à Paris.
Toi, tu le fais.
Non, beaucoup moins qu'avant, gros. Je l'ai fait au début quand j'étais excité par les
maintenant,
voyages.
Maintenant, tu pèses, c'est bon.
Non, même pas. Maintenant, flemme, en fait. C'est pas bien. Greta serait pas contente. Et c'est les dédiés à elle. Du coup, j'ai arrêté de prendre l'avion. Big up à toi, Greta, pour la 3e fois. Mais non, sérieusement. C'est vrai que j'ai eu ma phase où j'étais tout le temps à Paris.
Ouais.
Je descendais tout le temps en France. Mais non, c'est relou, clairement, prendre le décalage horaire. Comme on le dit à chaque fois, hein, 7h,
8h. Je l'ai pas senti du tout, là.
À l'aller, c'est
à l'aller,
le plus
ouais.
simple.
Okay.
C'est le retour en France qui va te tabasser. Parce
ah,
que à l'aller,
à
l'aller, tu pars à 15h et t'arrives à 20h. Et après, tu caresses quelques heures et tu t'endors. C'est parfait. Tu perds pas vraiment de tes repères. Par contre,
ouais.
au retour vers la France, donc de l'ouest à l'est, tu démarres à 18h et t'arrives à 6h du matin. Et là, tu te dis, attends, j'étais dans l'avion et c'est le matin. Manu, elle est passée où? Donc, tu dois faire une journée en
moi, je dors dans l'avion à chaque fois.
Ouais, mais
tout va bien.
Même quand t'arrives. Ouais, c'est
chanceux.
Ça. Ça, c'est la meilleure chose à faire.
Ouais, je suis trop habitué. J'ai fait tellement d'allers-retours en train, je peux
la
dormir
même.
N'importe
c'est
où.
C'est la meilleure stratégie, la vérité. Si tu peux dormir, c'est la meilleure stratégie.
Ouais.
Comme ça, t'arrives et tu fais ta journée
ouais.
en essayant de rester debout le plus longtemps
merci.
Possible. mais c'est là les plus gros dangers quand tu retournes, c'est que si tu dors pas dans l'avion, t'arrives et il est 8h du matin chez toi et 9h du matin et tu te dis, putain, je suis là.
Ok.
Alors que t'as pas dormi la veille, t'étais parti à 18h au Québec. Tu vois.
Ouais.
Donc ça peut...
J'ai peur de ça, gros. J'ai une giga semaine juste après, je vais me chier dessus.
Non, faut juste que tu fasses ça bien et nos stress, en vrai. Moi, je dis, dès que tu reviens là où t'es, faut pas se laisser prendre la tête par décalage. Tu fais juste ta vie comme si t'étais de retour direct.
Ouais, ok.
Tu en tiens à tes horaires habituels. Ça peut être difficile un peu, mais si tu te forces, ça va... Généralement, je sais pas à quel point c'est véridique, mais ils ont dit, c'est une heure de... Enfin, un jour, pardon. De...
Un jour par heure de décalage.
Un jour par heure de décalage, c'est ça.
Ça veut dire jour. Ah ouais.
Une
mais
semaine.
Non, mais fais comme si de rien n'était.
Non mais
ouais,
pour que tu sois tout à
bois
fait
des
posé,
cafés,
tu vois.
Ça va bien.
J'aime pas ça. Bon.
C'est bien.
Tu vas devoir te forcer. Hein. Sinon tu vas t'endormir.
Non, il va boire de l'eau, il va boire de l'eau et être actif, c'est tout.
Bonne chance.
Merci, gros.
J'ai connu ce combat. Hein.
C'est vrai?
Ben oui, on va quand même au moins une fois par année en France.
Mm.
Puis ça fait toujours ça en revenant. Lui, il donne des conseils et tout, mais ça lui prend genre 4 semaines à se remettre du décalage.
C'est vrai?
Ah ouais?
Oh,
ouais.
Merde, gros.
Je réveille encore à 6h du matin. Non,
donne-moi tes balles à toi. Ah,
moi,
on s'entraîne tous les jours ensemble, c'est ton culé. Il me tire dessus, mais on s'entraîne tous les matins ensemble.
C'est le piège. Quand tu rentres, tu vas être fatigué. Tu vas dire, ah, faudrait que je fasse une sieste. Non.
Fuck that.
Tu te tiens jusqu'au bout et tu te couches. Tu te couches à quelle heure d'habitude?
Je sais pas, un peu moins de minuit, une heure.
Ah ben c'est bon, tu te couches là, au moins après 9h parce que
okay.
Tu dois bien te réajuster et c'est tout. Après, tu t'hydrates bien, tu manges bien, santé,
tu
fais du sport, tout va bien aller.
Bon ben tu sais comment tu vas pouvoir faire la semaine. Hein.
C'est devenu très intéressant là, c'est ouais, un conseil de décalage.
Non mais c'est cool parce que tu sais, Ahmed qui est avec nous à la pharmacie la dernière fois m'a envoyé un message, il m'a dit « Dulu, ça fait rien, t'inquiète ». Et lui, tu vois, il est revenu justement la dernière fois de Montréal et il était dans la sauce. Donc voilà, la confirmation que t'auras pu profiter de ta semaine. Est-ce que, comme te le demandait Jules tout à l'heure, t'as pu manger de la poutine?
Évidemment, mec. J'en ai mangé deux. Je me rappelle plus le nom du premier. Et j'ai mangé à Poutineville parce que tout le monde m'a dit que c'était incroyable.
Ouais, c'est vraiment bon, Poutineville, okay.
J'ai pris des poutines à la patate douce. Vous faites tout le temps ça, vous? Genre, vous foutez de la patate douce partout?
Oui, il y a souvent l'option de la patate douce.
C'est
moi, je suis pas très fan, mais pour vrai, je peux comprendre l'envie.
Non, c'est même pas l'envie, juste c'est bon, mec.
C'est très bon, je respecte.
Moi, je trouve ça trop bon.
Je respecte.
C'est sucré, faut aimer.
Ouais.
Je respecte. Okay,
t'as pas ton truc non plus.
Oui, moi, j'aime bien,
moi,
mais
c'est
une poutine,
une
patate douce, j'ai jamais mangé.
Ok, c'est pas mal.
Ah ouais?
Ouais, franchement, c'est pas mal.
Puis t'en penses quoi de la poutine?
La poutine en général?
Soit en étant, tu peux parler mal.
Moi j'aime ça.
Ah ouais, t'as
vu ça? J'en ai goûté une à Paris. Mm-hmm. Parce qu'il y en a des shops qui vendent des poutines à Paris.
Ouais.
C'est pas vraiment pareil, tu sais, c'est plus.
Merci.
Ouais, non,
tu
c'est
reconnais.
Pas vraiment pareil. Non, la vérité, c'est pas pareil.
Merci.
C'est plus sucré à Paris.
J'arrête pas de le dire, c'est pas
c'est
les mêmes sauces,
sucré.
C'est pas le même fromage.
Ouais, la sauce est pas pareil, elle est plus sucrée.
Ah ouais, ok. Je l'ai pas encore testé, il y a la maison de la poutine là à Paris.
Ouais, bah voilà.
J'ai mangé là-bas.
Manger là-bas.
C'est pas aussi. Moi je trouve ça bon.
C'est pas question bon.
Mais c'est
pas
le même plat,
c'est
juste.
C'est pas de la poutine.
C'est pas le même fromage déjà, j'ai l'impression. Il arrive des tout fondus chez moi.
Mais j'ai pas vraiment. Ouais, j'ai pas remangé depuis. Ils disent qu'ils faisaient leur propre recette. Et du coup, je me suis dit, ah bah ça se voit que c'est leur propre recette. Hein,
ouais.
Parce que je reconnais pas la poutine.
Ouais, je sais pas.
Mais plus sérieusement, ça se peut qu'avec le temps, ils peaufineront leur truc. C'est cool qu'ils aient pris l'initiative, donc big up à eux. Mais c'est vrai que. Je pense que tu vas là-bas, tu ramènes n'importe quel Québécois là-bas et tu lui dis. Est-ce que c'est de la poutine? Il va te dire, non, c'est des frites, de la sauce et du fromage.
Ouais.
Mais c'est pas une poutine. C'est
ouais,
comme
c'est
ce qu'on avait mangé
ça.
En Allemagne. Toi, t'avais fait une vidéo sur ta chaîne YouTube où t'avais
fait
une dégustation de poutine allemande.
Ouais.
Et tu te rappelles, c'était pas de la poutine.
Non, non.
Bah, c'est pareil.
La sauce était trop salée, donc c'est le problème
c'est
inverse.
Ok, ouais,
de...
ok.
Ouais, donc, mais c'est à peu près le même délire.
Donc, t'as mangé Poutineville et l'autre, tu sais pas, c'était
l'autre,
c'est la banquise, hein, peut-être.
Non, c'était un truc. Gros, c'était.
La belle province.
Non, c'était un truc portugais, mec.
Ah,
Piri Piri.
Non,
peut-être.
Mon petit poulet. Non,
je sais pas. Mais
je connais tous
les
gens.
Je sais pas, il foutait full viande dedans. J'ai pris une classique, mais il y avait. Tu pouvais mettre n'importe quoi dedans, genre de la saucisse, des trucs.
Le
non.
Monté, truc muche là, comment il s'appelle le
Montero.
Montero.
Je sais pas, peut-être Piri-Piri, un truc.
Ouais, ça
ouais certainement
piri-piri,
ça.
Ouais, le Piri-Piri, ça se peut, ouais. Ah ouais, c'était. Est-ce que ça avait l'air d'être un peu comme une chaîne de fast-food avec le menu au-dessus des serveurs?
Rouge et vert, là. Piri-Piri en rouge et vert.
Je sais plus trop. Il y avait juste un giga portugais sur la porte.
Une caissière, elle était blonde.
Bah non, ouais, non. Je sais pas, la première
bon
était assez bonne. J'ai préféré la deuxième de Poutineville.
Ok.
Ouais.
Mais
c'est plus spécialisé. Le premier, c'est pas leur spécialité.
Ouais, ouais. Après, je me suis dit, genre, poutine portugaise, on m'a emmené dans un truc chelou, tu vois. Donc, j'ai voulu tester la Poutineville.
il a dit, on m'a emmené dans un truc chelou. Non, en vrai, ici, là, tu verras, on kiffe la bouffe portugaise, on kiffe la bouffe mexicaine, on kiffe la bouffe. Personne, mais on kiffe la bouffe.
On biffe la bouffe.
On biffe la bouffe. On kiffe la bouffe asiatique aussi, que ce soit de la bouffe coréenne.
Ça, en France aussi.
En vrai, je te jure, ici.
Mais en France aussi.
Les trucs coréens, il y a
partout,
sushi, il y a partout.
C'est juste pour revenir par rapport à ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas, parce que les gens se posent souvent la question.
Il y a tout.
Et il y a absolument tout.
Justement, l'avantage, c'est qu'il y a tout, mec.
T'as remarqué?
Il y a tout partout. Gros, on m'a dit, c'est une des plus grandes rues de Montréal. J'ai vu un sex shop et un truc pour enfants, genre pas loin à 2 mètres, tu vois.
Ah ouais, gros,
c'est n'importe quoi, vous foutez tout n'importe où, il n'y a pas de.
Il était sur Sainte-Catherine, lui.
Certainement, certainement. Gros, mais il y a. C'est n'importe quoi, vous avez foutu quoi avec le magasin, genre.
On n'a rien.
Même pour les logements et tout, il n'y a pas de. Il n'y a pas d'endroit où il y a les pauvres, il n'y a pas d'endroit où il y a les riches, il y a tout partout, gros.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
À part,
Il y a quelques quartiers de riches, évidemment,
comme
partout,
je t'avais dit, à côté
mais c'est
de...
vrai que tu peux vraiment te sentir à l'aise dans plein d'endroits différents à Montréal. Il n'y a pas de... Bah, je veux dire, il y a plusieurs. Y a pas, il faut être absolument ici pour être bien, ouais, sinon t'es pas bien. C'est pas genre ouais. que l'endroit où il y a un seul endroit qui est cool.
Ouais.
Je veux dire, tu peux te sentir bien à plusieurs endroits à Montréal ou à l'extérieur de Montréal ou ailleurs au Québec. Mm. Moi, j'ai des potes qui sont même pas ici à Montréal, qui sont même très loin à des heures de Montréal et qui sont vraiment bien.
Ok. Du coup, on m'a dit que c'était vachement centré sur Montréal quand même, tu vois.
Bah, souvent, tu sais, quand tu veux venir. Pas trop dépaysé, tu viens à la métropole, tu viens à Montréal, mais tu sais, comme on dit, Paris c'est pas la France, évidemment, Montréal ouais, c'est ouais. pas le Québec, mais ça reste l'exemple. Si tu veux pas être trop dépaysé, tu vas avoir un petit premier point. Par contre, ceci étant dit, moi j'ai plein de potes pour en revenir vite fait au petit dossier immigration, machin truc.
Ouais.
Moi je sais que j'ai beaucoup de potes qui sont venus et qui sont allés beaucoup plus en région, beaucoup plus loin de Montréal, un petit peu à l'extérieur, enfin un petit peu même beaucoup plus à l'extérieur de Montréal parce que de un ça coûtait moins cher, de deux ça payait plus. Il y avait plus de demandes, il y avait plus de reconnaissance pour certains diplômes et tout. Donc c'est sûr que depuis le début, on parle de Montréal, on parle de l'IX, etc. Mais c'est pas non plus, ça n'exclut pas les personnes qui vont n'importe où ailleurs au Québec. Parce que ça, il y a des potes qui sont bien, mais à perpète d'ici, hein, ouais. ceci étant dit. Mais ouais, pour en revenir encore une fois à ton séjour,
ouais,
t'as
ouais.
fait quoi? Tu m'as dit que t'étais à l'oratoire aussi.
Ouais, l'oratoire c'est ouf. Et gros, j'ai pris une petite rue, je t'ai raconté ça.
Ouais.
J'ai pris une petite rue là, qui ressemblait un peu à une forêt. Je me suis dit, vas-y, ça va être sympa. Je vais marcher un peu. Gros, les baraques là-bas.
Ouais, ouais, je sais. C'est
tu
comme.
Tu te souviens du nom de la rue?
Non.
Il y a. Forêt? Ça doit être genre.
Gros, je sais pas, tu sors de l'oratoire. Enfin, j'ai pris une petite sortie. Tu passes derrière la grosse statue là, le truc.
Ouais, West c'est Mount. Westmount, ouais. C'est des rues qui descendent là en serpent.
Ah ouais, c'est ça. Des
j'étais
genre
tout en haut, j'ai descendu comme ça. Voilà.
Ah ouais, ouais, c'est.
C'était ah,
c'est
n'importe quoi. Il y avait tout à vendre. Ouais. Personne n'habite là-bas, mais tout est à vendre.
Achète,
tout
mec,
est cher.
Achète, allez
mais
bien.
Bien sûr, gros.
Allez bien.
Non, c'est abusé. Non, j'étais pas prêt pour les prix, vraiment.
Ouais, mais ouais, en même temps, t'as visité, comme t'as vu, Hollywood Boulevard.
Ouais, ouais, truc. Ouais, voilà.
Yes.
Sinon, j'ai fait quoi gros, en fait, ça m'a perturbé parce que je suis parti à New York, comme c'est à côté.
Ouais,
et du coup,
est-ce que t'as pris un bus, une voiture?
J'ai pris un bus, ouais.
Ouais.
J'ai pris 9 heures de bus de nuit. Donc, trop cool. On a dormi, on est arrivé là-bas à 7 heures du mat. Parfait, tu vois. Et on arrivait à New York et on a vu full monde rentrer dans un gigastade et tout. Je dis, vas-y, il se passe
on
quoi
va
là
aussi.
On voit, mec.
Du hockey.
On est rentré, c'était un match de hockey. On a vu bon, les deux équipes les plus fat, j'étais pas au courant. Je connais aucune règle du hockey et tout. Je me ouais. sentais vraiment comme un escroc.
Mais ça va, c'était pas trop compliqué à suivre, si.
Mec, il y a deux buts.
On est d'accord. Hein.
Il y a deux buts, un palais, ça rentre, ça rentre pas.
On est d'accord, t'as vu, tu suis.
Après, je comprends pas quand il y a des fautes.
Ouais, mais à chaque fois, le fait qu'il s'arrête et qu'il fasse un temps mort, un temps d'arrêt à chaque faute, ça peut déstabiliser quelqu'un.
Mais je
quelqu'un
sais même pas, genre, le gars, il se mange la vitre dans la gueule, c'est bon.
Ouais,
on touche un peu derrière, c'est terminé.
Ouais, mais faut connaître les règles. Mais c'est vrai que si tu connais absolument pas le sport, tu les vois, tu dis, mais pourquoi vous arrêtez? Pourquoi
mais
vous
ouais,
arrêtez?
Non, mais pourquoi ça, j'ai pas compris. Ça
la première fois que quelqu'un regarde ça, surtout si t'es vieux, tu sais, si t'as pas grandi avec ça, je peux comprendre, mais. Après, tu regardes quelques matchs, tu te renseignes un peu sur
forcément.
Les règles et tout devient sensé. Mais t'as vu comment ils animent bien dans un stade? Parce que même durant les temps morts, t'as de la grosse musique.
Mais c'est
qui
abusé,
joue.
Gros. T'as des gros écrans avec marqué genre shout et tout.
Ouais, ouais, ouais.
C'est incroyable.
Ouais, donc tu te fais pas chier quand t'es au stade. C'est pas parce qu'il y a des temps ouais. morts ou il y a des arrêts toutes les.
Il y a vraiment des
minutes.
Animations de ouf, c'est trop bien, mec.
Ouais, ouais.
Jamais vu ça. S'ils faisaient ça au foot en France, giga bordel, mec.
Ouais. Mais en même temps, au foot, il y a 10 fois moins d'arrêts.
Ouais, mais pas besoin, mec. Même genre les entrées des équipes et tout, genre c'était
j'avoue,
des super-héros là-bas.
Ouais, ouais, ouais. Avec les gros écrans au-dessus
ouais,
du stade,
ouais, ouais.
genre commencer à crier,
même,
sortir
mec,
les drapeaux et
les
tout.
Les jeux de lumière.
Ouais, ouais. ouais
c'est fou. C'est Après, vrai. On peut pas faire ça en France, c'est ouvert, tu vois.
Ouais, ouais.
Mais.
C'est des grosses arènes. C'est vrai que les arènes de hockey sont impressionnantes.
Elles sont ouf.
Ouais.
C'était abusé. Mais oui, sinon, là, on est en train de parler de New York, mais Montréal. Mec.
T'avais des potes ici ou quoi? Ou t'es venu juste comme ça de promener?
Je suis venu juste avec. Je voulais voir ma meuf qui fait des études là.
Uh-huh.
Et du coup, non, j'ai pas spécialement de potes ici, mais j'ai rejoint son groupe de potes vite.
Yeah.
Et bah, le problème, c'était qu'elle fait des études à l'UQAM. Et là-bas, elle traîne avec des Français.
Dédicace à la régie, Muriel, on est là.
Et elle traîne avec des Français là-bas. Du coup, j'ai vu aucun Québécois, genre.
Ouais.
Ça, le problème.
Bienvenue, t'inquiète, il y en a plein derrière la caméra.
Ouais, ouais, j'ai vu ça. Et ouais, du coup, j'ai pas trop été imprégné en 2 semaines de la culture d'ici et tout.
Yeah.
J'étais vraiment entre Français à Montréal, tu vois.
Uh-huh.
Un peu dommage. Mais vas-y, je reviendrai de toute façon.
Mais t'as kiffé, t'as retenu...
Ouais.
T'en as regardé un bon souvenir, j'imagine.
Ouais, de ouf. Mais c'est ouf. Vraiment, j'aimerais trop revenir pour redécouvrir le truc
yes.
et tout.
Qu'est-ce que t'as aimé particulièrement d'ici?
Je sais pas, j'étais bien dans la rue, gros. Il y a aucune.
Juste, tu te promenais, hein, on est d'accord. Tu te promènes sans but, tu découvres la ville en marchant. Il y a tellement de trucs à voir.
C'était ta première fois en Amérique, genre, sur le continent.
Je suis déjà allé à Las Vegas, mais rien à voir.
Okay, ouais.
C'est genre même pas, une ville. Et, ouais. C'est même pas une ville là-bas, gros. C'est un parc. C'est un parc assez géant, tu vois.
Ouais, c'est vrai.
C'est juste. Du coup, non, je suis jamais allé dans un truc civilisé ici, quoi. Ouais, non, jamais. Je crois pas. Non, jamais.
Et en France, tu disais que t'étais à Paname, c'est ça?
Ouais, depuis pas longtemps, depuis mai.
Ouais, c'est cool. Ouais, en plus de ça, comme tu t'as dit, tu viens de bouger, ça fait juste quelques mois, ça t'a pris tellement de temps pour pour l'avoir et tout.
Mm.
Mais ici, d'ailleurs, ça marche souvent la plupart du temps quand tu veux déménager ici, quand t'es nouvel arrivant. La plupart du temps, on va te demander un garant, ça peut toujours aider, tu sais, si tu connais quelqu'un qui peut être garant. Sinon, on va te demander une caution de 2 mois d'avance.
Bien,
et des trucs comme ça.
Je devais avoir 2 garants. Et genre, tu sais, bon, j'ai un peu de thunes sur mon compte, ça va, tu vois. Sans battre les couilles, gros. Ouais. Genre, tu peux avoir n'importe quoi. Moi, j'ai pas de garant. Genre, les loyers à Paris, c'est 1000 balles minimum, tu vois.
Ouais.
Et il faut 3 fois 1000 de loyer. Trouve quelqu'un qui gagne 3500 euros en France, genre deux personnes comme ça. Impossible.
3 fois 1000 de loyer. Faut que les
3 fois 1000
de
loyer.
Faut que tes référents aussi gagnent 3 fois 1000 de loyer.
Surtout eux. Moi, on s'en bat les couilles.
C'est pas comme ça. Ils te demandent pas que tes référents aient un certain pourcentage ou un certain multiplicateur de ton revenu.
Je sais pas, après, peut-être c'est spécifique à Paris.
Après, la grosse différence ici au Québec, et c'est un truc dont on n'a pas parlé, mais ça peut être très intéressant de l'expliquer, je pense. Ah, yeah, you saw me coming. Mais le truc, c'est que ici, t'as un score de crédit qui est attaché à ton
identité. C'est quoi ça?
C'est comme dans Black Mirror.
Ah ouais, vraiment?
C'est comme dans Black Mirror. En fait. En gros, t'entends souvent parler de carte de débit ou de carte de crédit quand t'es au Québec.
Moi je dis Mastercard.
Au début ça peut être déstabilisant. Et t'as vu, tout nous ramène au thème de ils veulent aller ou vivre au Canada ou quoi. Donc big up à Valentin. Mais donc tu peux entendre carte de débit ou carte de crédit. Ce sont 2 cartes séparées. Par défaut, quand tu crées un compte, comme tu le ferais dans n'importe quel pays, t'as une carte de débit. Donc ça débite ton compte de l'argent que tu possèdes dessus.
Oh ouais. Quand et ça crédit, arrive à 0, c'est à la fin du mois, tu prends tout dans la gueule.
En fait, crédit, c'est une carte que tu vas. C'est l'argent que tu ne possèdes pas. Donc c'est une limite virtuelle. Ça peut être 1000$, comme ça peut être 10 000, comme ça peut être 20 000 si t'es riche, je sais pas moi, n'importe quoi. Si t'es solvable, si t'es un bon payeur. Mais on va y venir plus tard. Mais ouais, t'as une carte de crédit, ça, c'est de l'argent que tu ne possèdes pas. Tu le payes et il faut que tu rembourses, sinon t'as un taux d'intérêt dessus, etc. Ouais. C'est comment ça marche. C'est un crédit en fait, c'est simple, c'est une carte de crédit.
Okay, ouais.
C'est comme son nom l'indique, c'est un crédit. Mais ça, c'est un truc qui est très commun ici, tu vois. C'est pas
ça
comme.
Ça existe pas du tout là.
Je sais qu'en France, il y a des petits trucs d'emprunt, de crédit par-ci par-là.
Ouais,
mais c'est, pas...
c'est des crédits, tu vas voir la banque, tu demandes des sous, quoi.
Mais c'est... ici, la plupart du temps, c'est. Dès que tu ouvres un compte, on te dit, voulez-vous une carte de crédit avec? Ou une semaine après, on te dit, voilà, venez, prenez une carte de crédit.
Ok.
Et du coup, c'est quelque chose qui va avec. Après, il y a aussi le fait que toutes les factures que tu payes sont liées à ton crédit aussi. Donc, je sais pas, moi, tes factures de téléphone, des conneries comme ça, ton électricité ou quoi.
Faut qu'on en parle ça aussi, mec.
Et faut qu'on en parle
de ça.
Ouais, de ouf. On va en parler dans 2 secondes. Tu vois, et tout ça, en fait, si t'es un bon payeur, c'est additionné dans un score de crédit qui est encore une fois lié avec ton identité.
Attends, quoi, c'est-à-dire plus tu payes et plus tu arrives à rembourser,
exemple,
plus t'as un score.
Ta carte de crédit, à chaque fois que tu vas dépenser de l'argent, ils vont te demander de l'argent minimum à payer.
Ouais.
Si tu le rembourses, t'es carré. Ta facture d'électricité, si tu la payes à chaque mois, t'es carré, ils mettent une bonne note sur ton truc.
Ok.
Si tu payes, je sais pas moi, si t'as pas de trucs chelous sur ton compte, t'es carré, t'as un bon score de crédit.
Mmh.
Si t'as un bon score de crédit, après tu peux aller demander un emprunt à la banque. Ou alors tu peux aller aussi louer un appartement ou tu peux aller acheter une maison. C'est avec ça que ça fonctionne, tu vois.
Oh, c'est tellement bien.
Tu vois, t'as un score, il est clair, net et précis et tu peux aller checker, tu peux aller vérifier en ligne, tu vois, sur un site gratuit, quel est ton score, quelle est ta solvabilité, comment bosser dessus. Et des trucs comme ça, quoi.
C'est trop bien.
Mais c'est comme
ça évite justement le problème d'avoir 46 garants, même si genre, tes factures, tu les règles et tout.
Mais
trop
c'est
bien.
Ça. Tu, en fait, la plupart du temps, quand tu vas louer, quand t'es pas un nouveau visiteur, on va te demander une enquête de crédit pour voir si t'es solvable.
Okay.
Et ça leur dit, il est solvable comme si. Ou alors, ils vont dire, paye-nous un mois d'avance, s'il te plaît. Ou alors, non, c'est bon, vas-y.
Mais après, le problème avec ça, c'est que si t'es quelqu'un qui...
Ça, ils ont plus le droit de le faire, d'ailleurs, depuis un moment.
Bah, de vérifier si t'es solvable ou pas.
Les enquêtes de crédit, ils ont plus le droit de les faire depuis un moment. Ils ont le droit? Ok, bah c'est bon.
Je peux te dire qu'ils le font encore beaucoup.
Non, mais j'étais pas sûr parce que... Ouais.
Mais le problème avec ça, c'est que
si
t'es quelqu'un...
C'est les dépôts qui n'ont pas le droit. Hein. Ouais, c'est les dépôts qui n'ont pas le droit de demander.
Si t'es quelqu'un qui veut juste payer avec l'argent dans ton compte direct, débit, et que t'as pas le goût de te ramasser avec une carte de crédit à devoir rembourser des trucs. Mmh. Si tu veux juste payer de façon simple, ben t'as pas vraiment de code de crédit. Okay. Donc après, ils peuvent pas vraiment t'évaluer là-dessus.
Du coup, le...
Il faut que tu construises un peu une cote de crédit avant de pouvoir louer un appart ou des trucs comme ça. Après, il y a des exceptions.
C'est clairement un truc obligatoire, en fait. C'est pas obligatoire, mais tout comme.
Mais en gros, tu sais, on te dit, ouais, construis ton historique de crédit. Tu sais, mais quand t'es jeune, une bonne éducation, généralement, on te dit, ouais, paye juste, genre, peut-être ta facture de téléphone avec tous les mois. Et rembourse après, ça te fait un historique, ça c'est un bon payeur.
T'es un peu coincé dans le crédit. Même si tu veux pas, tu vas en dépendre un jour ou l'autre.
Ouais.
Après, tu peux trouver des proprios qui sont cool, qui te demandent pas d'enquête de crédit. Mm. Mais ça devient très rare parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de demandes d'appartements ici. Il y a genre le marché a explosé. Il y a une pénurie même d'appartements. Donc, ils sont de plus en plus stricts, les proprios. Ils demandent des enquêtes de crédit, ils demandent des références et tout. Mais c'est sûr que c'est pas autant qu'à Paris, je pense.
Ouais.
Mais
on n'a pas ce truc-là, je te dis, il faut juste des parents riches, je crois.
Ouais.
Ou de la chatte.
Ça, c'est dommage.
Ouais, vraiment. C'était galère.
Mais moi, c'est que des histoires comme ça, surtout pour les potes de mon âge là, qui essaient de se trouver un appart et qui sont un peu dans une situation indépendante, c'est la galère.
Ok, indépendant, ouais. Étudiant, c'est easy. Tu fais ce que tu veux en étant étudiant, t'as tout ce que tu veux. Mais gros, ouais, indépendant, tu laisses tomber. Tout le monde te chie à la gueule. Incroyable.
Non, ici c'est cool. Ici, si t'as l'argent, si t'as de quoi payer, c'est carré. Mm. C'est ça qui est cool.
Ouais.
C'est que tu au pire.
Bah, c'est normal juste.
Ouais, c'est ça. Au pire, ce qu'ils te disent, bah écoute, pas de soucis, c'est un peu bizarre, je comprends pas, donc je vais te dire, paye-moi ça vite fait, s'il te plaît, ou quoi. Même pas, ça peut être juste une entente ou un contrat ou un garant ou des trucs comme ça.
Ouais.
Donc, affaire à suivre, quoi. La prochaine fois que tu viens, par contre, on va t'emmener voir des vrais trucs là.
Vas-y, fais-moi te visiter,
gros. On va te sortir, ouais. Parce que nous, pareil, on a été en train de. Nous, pendant que toi t'étais ici, nous, on était en France, enfin, pas pendant que tu y étais, mais. On revient de France et tout, on n'arrête pas de faire des allers-retours. Ouais. Mais on s'est vu la dernière fois justement.
Avec
Maxime, on avait tourné la vidéo Fortnite, on en parlait avec lui. Et toi, t'étais sur place, on s'était vu. Donc c'est ouf, mec, on s'était vu à Mantes-la-Jolie.
J'avoue.
Ouais.
Ouais, on s'est vu à Mantes-la-Jolie et là, on est à Montréal, au Canada, incroyable. À l'autre bout de la Terre. On est en train de faire un petit podcast complètement improvisé, c'est trop bien. Alors ouais, bien cool mec, merci d'être passé dire bonjour. On va aller chercher notre dernier invité qui est... prends ton temps, t'inquiète, on n'est pas pressé. Mets-toi à l'aise.
Vas-y, je suis...
On va rester ici aussi longtemps qu'on veut. Mais je disais qu'on allait chercher notre prochain invité qui va être Ray.
Ryan.
Gros, juste les forfaits.
Oui,
les forfaits.
Ah tu vois, c'est pour ça que je dis prendre notre temps. Vrai, yes, let's go.
La
voilà,
télécom
yes.
Ici.
Ouais. T'as,
comment t'as vu ça?
Bah j'en ai parlé à Benji.
Ok.
Et même j'ai compris que c'était cher, genre... J'avais 3 gigas en venant ici, et tu sais, en France, tu fais pas gaffe, t'as genre 30 gigas et t'en bats les couilles. J'avais 3 gigas, j'ai déverrouillé mon truc, j'ai dépassé 60 balles direct. Oula. Bon, bah pas cool,
erreur
mais ça, c'est dans tous les pays étrangers.
C'est vrai, erreur à ne pas commettre, ne pas activer les données en itinérance. Ouais. Si tu vas n'importe où dans le monde, tu vas dans les paramètres données à l'étranger, désactiver les données à l'étranger.
Ouais, toujours.
Avant d'arriver même.
Toujours. Je me suis fait niquer aussi en allant en Chine, j'ai déverrouillé mon truc 120 balles d'un coup, horrible.
Ouais.
Et ouais, non, ici, à part vos forfaits,
c'est non. Des Twinkies, man. J'ai jamais goûté.
On a des amis qui... On a des Twinkies.
Waouh. Ouais, Benji m'a dit qu'il avait 7 gigas, $80.
Ouais, mec. Ouais.
Gros, je paye.
C'est les prix.
Je paye 10 euros, j'ai 30 gigas.
Ouais.
Ici, genre, il y a un problème à ce niveau-là.
Tu sais quoi ?
Il y a une loi, apparemment.
Ouais, mais en fait, c'est juste un monopole qui dure depuis beaucoup trop longtemps et un manque d'informations et tout.
En France, il y a Free qui a tout pété.
Mais
et
je peux te dire, tu vois, en étant là depuis 9 ans, ce que j'ai remarqué, c'est que moi, quand je suis arrivé à l'époque, le plus gros que tu pouvais avoir, c'est une limite de 100 gigas à la maison, mec. Imagine, tu télécharges un jeu, genre tu télécharges Call of Duty, tu payes $80 supplémentaires sur la facture.
Terminé, ok.
Mais c'est pour ça que je te dis, à l'époque, il y avait... Moi, à chaque mois, je payais $80 de plus de surforfait parce que je dépassais les 100 gigas à chaque mois.
Là, c'est limité les box.
Là, maintenant, c'est illimité. Et encore, la plupart des trucs, des fournisseurs, ils te disent ouais, ça coûte $10 de plus si tu veux les limiter. Sinon, c'est 400 gigas ou quoi. Il y en a qui essaient encore de mettre les limites. C'est pour t'indiquer où on en est dans l'industrie du télécom.
Ouais. On est loin derrière,
mais la vérité, ça a beaucoup évolué en 8 ans. Donc,
L'avantage, c'est que personne n'est sur son téléphone dans la rue, gros.
Vraiment,
j'ai pas remarqué ça.
Mais vraiment, personne.
Ah ouais,
à Paris, gros, tout le monde regarde son truc. Genre...
Et pas ici
Enfin,
moi j'ai l'impression.
Comparativement à Paris,
j'sais
pas. Personne qui regarde son téléphone.
Ah, bah c'est l'avantage des
prix. Ouais,
hein.
Les gars, bien joué, les gars.
Je te crois sur parole.
J'ai tout compris, rien du tout.
Mais non, c'est la vérité, ouais, ça, le télécom, pour le coup, c'est vrai. Juste pour ceux et celles qui veulent se renseigner, allez sur le site, je sais pas moi, de Vidéotron, de Bell, de Telus, de ils ont tous à peu près les mêmes prix là, ils se font de la compétition. Mais ouais, juste Bell.
Ça fait chier vraiment.
Juste le bail, c'est d'avoir une adresse en France et de. de balancer son forfait là-bas et de prendre un truc à l'étranger.
Ouais,
mais moi,
c'est
genre...
ça que fait Valentin. Hein, je
pense. Bah ouais, ouais,
Valentin
bah
il a fait ça pendant un bon moment. Là, il le fait plus, mais pendant un bon moment, il avait son forfait français qui était illimité. Il l'a utilisé pendant un bon moment au Canada, pardon.
Bah moi, je crois qu'elle a 15 gigas et paye 15 euros aussi, ici.
Ah, il l'a encore, il l'a encore. Il l'a encore, Valentin.
Ah
ouais, yes. Il a une iPhone avec double SIM, il dit damn. Bah écoute Poto, merci encore pour le passage.
Merci,
c'est
à
pas
toi,
comme
bon.
Si qu'on se quittait là, on va juste faire une petite pause. On revient tout de suite Twitch à
yes,
tout de suite
à toutes.
Avec notre dernière invitée. Je dis Twitch et toutes les personnes qui nous écoutent, on vous aime aussi. Hein. Mettez des likes sur YouTube.
T'as trouvé ça ?
C'est parti pour la troisième partie de ce podcast avec une petite transition bien douce. On est toujours avec Gucky.
Salut,
comment
c'est moi.
Comment ça va ?
Ça va et toi ?
Ça se passe très bien.
Tout à fait.
On a un nouvel invité encore avec nous, les gens. Je sais, c'est difficile à suivre. Déjà trois personnes en à peu près 5 minutes. Mais on est avec Ray. Comment ça va, Ray ?
Ça va.
Ryan. Attends, on va lui monter son sang. Écoutez sa voix douce là. Ça va ?
Elle est douce.
Yes, ça va quoi, Ryan ?
Ouais, ça va.
Ryan, on t'a invité ici pour plusieurs raisons. Bah, parce que de base, on devait chiller ensemble pour commencer la vérité. C'est un ami à nous.
Tout à fait.
Et puis aussi parce que on avait un sujet qui avait commencé à nous intéresser vite fait. On parlait d'ingénierie génétique avec Jules dernièrement.
Oh ouais.
C'est pas forcément ce qu'on allait aborder, mais on va garder ça pour un prochain épisode. Mais toi, t'étudies en neurosciences. Ça c'est m'avait ça. Vite fait penser à ça. Je me suis dit, lui, tu fais une conscience. Après, je regardais les autres, ils faisaient de l'ingénierie génétique et tout. J'ai fait un lien, j'ai fait tout est lié. Mais
on en a parlé, ouais.
Et ouais, du coup, je voulais que tu nous parles un petit peu vite fait de la neuroscience et tout. Ça sonne super bien. Et attends, en plus de ça,
vas-y.
Le deux bonus. Pour un, hein. Ouais, désolé, je t'en demande trop. Mais deuxième truc en plus que je te demanderai après, c'est à toi. C'est t'es venu de France au Canada il y a quelques années. Puis donc ouais, toi aussi, tu restes dans la thématique du podcast, donc les gens vont peut-être dire «
Concept !»
Vous vous êtes éparpillé, nul. Bah non, regardez, on a encore une personne qui a bougé de la France au Canada, ça fait un témoignage de plus complètement différent. C'est des personnes qui se connaissent pas, on est tous potes, mais à la base on se connaissait pas, on vient tous d'endroits complètement différents. Alors c'est cool. So, yeah, vite fait, Canada, t'es arrivé quand, tout ça, les
études ? Je suis arrivé il y a un an et demi maintenant, ça veut dire j'ai commencé l'année dernière, septembre, puis je suis arrivé à Montréal, j'avais fait un bac S, système français, j'ai eu une mention bien, ils m'ont accepté ici à l'UDM en neurosciences. Puis à savoir que nous on vient un an plus tôt que les Québécois, eux ils font le cégep. Du coup on est souvent, tous les Français c'est souvent les plus jeunes à l'université.
Parce que vous avez un an d'avance sur les Québécois.
Exact, parce que nous on a juste 3 ans de lycée. Tandis que vous faites 2 ans de cégep au bout de l'équivalent de notre première.
Je comprends. Ça fait en sorte que t'es arrivé avec... T'étais un an plus jeune.
J'étais un an plus jeune, du coup, ouais, y avait des difficultés.
T'as eu une équivalence, quoi. Genre, t'es arrivé directement, t'as repris l'école ici. Est-ce que t'avais une bourse ou comment ça s'est passé ?
Non. En fait, en soi, je suis pas exactement. Je connais pas tout sur ce sujet. Mais
oh
genre...
non, t'inquiète, hein, on va pas te casser la tête avec l'administratif, c'était juste vite fait.
En soi, ici, pour demander une bourse, faut être canadien.
Ouais.
Et en France, t'as des bourses. C'est super facile souvent d'avoir des bourses, il suffit de quelques papiers, etc. Mais un Français qui est au Canada, la France ne lui donne pas de bourse souvent. À part si c'est avec Erasmus, mais Erasmus c'est en Europe. Donc Montréal, lui, n'a pas de bourse.
Ouais, donc il y a quelques... Ok, je vois ce que tu veux dire. Donc tu es venu comme ça et tu as été en neurosciences.
Yep.
Ça fait combien d'années t'as dit que tu es là ?
Ça fait un an et demi.
Un an et demi, putain, ça fait pas longtemps.
Ouais.
Ça va, tu kiffes un peu ?
Ah, j'adore.
Tu t'attendais
j'adore,
à quoi
j'adore.
Un peu ? À quoi ça ressemble par rapport à tes attentes ? Parce qu'un an et demi, mec, c'est grave frais. Donc là, on a une réaction à chaud. T'as vécu toutes les saisons, t'as vu l'hiver.
Ouais, c'est ça. Non, l'hiver, je vais pas mentir, comme a dit Valentin tantôt. Moi, je trouve que c'est un peu difficile. Surtout quand t'es habitué. Moi, je viens de France, je viens du sud, je viens de Nice. Donc, il fait souvent chaud. Il neige pas, en fait, il pleut en hiver. Et ici, quand t'arrives, il fait des fois, quand tu vas dans le nord, genre Laurentides un peu plus haut, il fait moins 35, moins 45, juste pour aller faire du ski. C'est trop dur.
Ouais,
c'est vraiment trop dur.
Non, tu vois, c'est cool d'avoir un avis complètement différent de ce qu'on avait entendu auparavant. C'est un bon témoignage. Est-ce que tu penses que ça va te faire galérer sur le long terme ? Comment tu penses que tu vas vivre ça ? Est-ce que tu te vois déménager à un moment ? Tu te dis, vas-y, je me casserai un moment. Je retournerai dans un endroit où il fait chaud.
Non, en vrai, avec si on fait la balance, l'été à Montréal, c'est genre magnifique.
Ouais.
Du coup, t'as le négatif, t'as le positif. Puis je pense que l'été à Montréal vaut plus que l'hiver à Montréal. Du coup, je me dis, de toute façon, j'ai l'été qui arrive.
Je comprends ce que tu veux dire, c'est worth it au final.
Ouais, c'est ça.
C'est le sacrifice.
Ouais, c'est ça.
Mais au final,
ouais,
ça fait juste payer. L'équilibre dont on avait parlé au début. Hein.
Ouais.
Peut-être de pouvoir profiter de là en connaissant le contraire. l'hiver, l'été, tout ça, d'avoir toutes les saisons, c'est aussi un petit privilège. Donc
ouais,
c'est nice.
C'est ça.
Alors, ouais, c'est cool. Un bon petit point de vue. Après ça, tu t'es retrouvé en neurosciences. Donc, t'as commencé il y a un an, j'imagine, le temps d'installer quelques mois
et tout. C'est ça, à Côte-des-Neiges, à l'Université de Montréal.
Yes, l'UDM.
C'est un quartier qui est très, très, très. Il y a beaucoup, beaucoup d'étudiants.
Gang.
Donc, il y a beaucoup de Français, etc. C'est pas... On se dépaysage pas tant.
Ok.
C'est le vibe universitaire, tout le quartier. C'est vraiment... C'est léger, tu vois. C'est pas comme si t'étais en Montréal, centre-ville, et tu
t'es
vois
perdu,
le monde qui bouge, etc. C'est ça.
Ouais, tu t'es retrouvé vite à la maison, quoi.
Ouais, c'est ça, vraiment.
Posé, c'était comme le quartier.
C'est ça, exact. Tu restes... Il y a des parcs. Il y a beaucoup de parcs ici.
Ouais.
Et du coup, souvent, les gens, ils se rejoignent au parc, etc. Tout le monde profite de la nature.
Propre, c'est moins... C'est cool, comme premier petit ressenti, un an et demi. Et on te reverra sûrement, là. Tu nous diras ce que t'en penses sur le long terme et tout. Et neurosciences, du coup, pourquoi, comment...
Ouais.
Alors, ça, c'est le côté intéressant de l'histoire.
Alors, j'ai fait un bac S et j'ai fait spécialité sciences, SVT. Du coup, j'étais à la base bon en tout ce qui était biologie, mais mon passe-temps, c'était vraiment la psychologie, etc. Puis mes parents voulaient que je sois médecin. Mes parents, ils sont...
Donc, t'inquiète.
Donc il voulait que je sois médecin.
On est là.
Et mon père, lui, il est informaticien. Il est ingénieur informaticien. Donc j'ai grandi dans l'informatique, j'étais bon en biologie, j'étais passionné de la psychologie, puis mes parents voulaient que je fasse de la médecine. J'ai mélangé tout, j'ai fait, je vais faire de la neuroscience, ça mélange tout.
Allez.
Il y a de la nanotechnologie en science, comme il y a la neurologie, de la médecine, comme il y a de la recherche biologique, comme... Ça touche tout, comme le cognitif aussi, la psychologie.
Trop stylé, mec, je veux que tu nous en parles vraiment en détail. Par contre, parle dans le micro, je veux qu'on l'entende
d'accord.
T'éloigne pas du micro, là, garde ta tête à côté, là, je veux pas perdre aucun détail. Mais ouais, alors après un an, comment tu sens, comment tu te sens avec cette décision, ce choix?
Je regarde pas, vraiment, je regarde pas. À savoir, moi, il y a pas ma famille qui est venue avec moi, je suis venu ici tout seul.
Voilà, t'as d'affle le micro, sinon je vais monter en l'air, là. Le micro, arrête de bouger ta tête, là.
Là, ça bouge plus.
Eh, ta tête, elle bouge, Ryan.
C'est bon.
Eh, ta tête, elle bouge, Ryan. Un centimètre du micro, yek. Tu vas voir.
Ok. Du coup, je disais, ouais, je suis venu sans ma famille. Ah. Je suis venu ici à Montréal, mais j'ai été directement très, très bien accueilli. J'ai pas eu de nostalgie. J'avais pas genre de bad parce que j'avais quitté ma famille ou le pays où j'avais grandi, etc. Je suis arrivé directement. Les Québécois sont gentils. Il y a aussi d'autres immigrés comme moi, en soi. Donc, je me sentais jamais seul.
Cool.
T'es bien intégré aussi.
Ouais.
T'es quelqu'un de très sociable, t'es allé vers les gens, tu t'es bien intégré.
Ouais, c'est ça. Mais quand les gens sont gentils, t'es gentil avec eux, directement.
Bonne petite expérience, t'as quel âge?
J'ai 20 ans.
20 ans, putain, il est jeune.
ouais, vraiment.
20 ans, damn.
Ça ressemble à quoi concrètement, là, ce que t'étudies en ce moment, neurosciences? Parce que j'ai aucune idée, je connais le mot science, neuro, cerveau, mais c'est quoi que tu fais?
Comme je te disais tantôt, la neuroscience, c'est vaste. C'est très récent, c'est un domaine qui date de 1970. C'est tout récent. Ça a commencé quand on s'est dit, ok, les neurones, comment ça marche? C'est quoi le cerveau? Bon, après, ça rentre dans des débats, mais à la base, la motivation pour étudier le cerveau, c'était l'esprit, le corps. C'est quoi la différence?
Ouais.
Donc, où est-ce que ça se trouve? Est-ce que ça se trouve dans le cerveau? Est-ce que c'est le cœur, etc.? Du coup, les gens, ils ont commencé à fouiller le cerveau. Avant, on n'avait pas le droit à l'époque. C'est pour ça que maintenant, c'est tout récent. On commence à laisser étudier le cerveau, le cas de patients, des gens qui donnent leur cerveau, etc. Et c'est comme ça qu'on a commencé à étudier. Et on s'est rendu compte que le cerveau, comme ça contrôlait tout, ça s'appliquait à tout. Donc la médecine, pour des problèmes cognitifs, comme pour des problèmes physiques de cerveau, les tumeurs, etc. On peut maintenant les réparer, etc. Biologie, des recherches, savoir comment ça marche, comment on peut booster ça, pourquoi tel effet a tel effet, pourquoi quand on prend ça, on a cet effet, etc. Puis aussi le côté technologique, avec artificial intelligence. Deep learning, machine learning, du neurocomputing.
Ouais, l'intelligence artificielle et tout ce qui s'ensuit. Ah, donc tu touches vraiment à tout.
Je touche à tout.
Quand tu disais au début que tu t'intéressais à la biologie, aux maths, à l'informatique, à la médecine.
Ouais, c'est ça.
Et que
tu as
essayé de marier tout ça, du coup, tu
l'as... En neurosciences, j'ai exactement tout ça.
J'ai
même de pharmacologie, de médecine, de bio, de computing. Je fais des cours un peu de tout.
Bien propre. Ça va durer combien de temps, tes études, là?
En soi, je peux le faire en 2 ans et demi. C'est ça qui est très bien, parce que mon programme, on considère qu'on est assez bon pour faire une sorte de bac express, parce que l'équivalent, en France, nous, on appelle ça des licences, L1, L2, L3. Ici, c'est des baccalauréats. Moi, je suis en baccalauréat de neurosciences, et je peux faire un stage pendant les étés, c'est-à-dire, en fait, quand j'ai jamais de vacances, puis je finis en 2 ans et demi.
Ouais, si tu fais ça en express rush, tu perds pas de time.
C'est ça.
C'est ton plan de le faire en 2 ans et demi, speedrun?
Faudrait avoir tout le temps les bonnes notes.
Ouais.
Pour pouvoir rester pas se noyer, on va dire. c'est faisable. À savoir qu'on a une difficulté, nous, les Français, parce qu'on arrive, on a un an moins que les gens. Donc, eux, ils ont des meilleures bases que nous. Mais il y a des survivants. J'en fais partie.
Nice. GG, continue, mec, lâche pas.
Merci.
C'est cool, c'est cool. Il t'en reste pas beaucoup, en plus. Un an et demi, ça passe super vite.
Ouais.
Un an et demi, ça passe super vite comme ça. Et après ça, t'as le reste de ta vie. Putain, t'imagines 21 ans, ça y est, il a fini, lui. Comment
ça, c'est juste le bac.
Ouais.
Après, je dois faire d'autres études, forcément.
Yes. Ouais, tu continuerais quelques années pour te spécialiser parce que c'est cool de.
Bah, moi, justement, dans le neurocomputing.
Neurocomputing, ok, nice.
C'est quoi du neurocomputing? Moi, j'ai.
Ok. Là, on va rentrer vraiment deep, par contre.
Let's go.
Plongeons. Ben, je vais t'expliquer ça vraiment basiquement. Genre, même vulgairement, il y a des gens, ils vont me dire non, c'était pas ça, c'était pas exact,
c'est
mais
pas
c'est pas
grave, t'inquiète.
En soi, neurocomputing, ça serait utiliser la technologie pour comprendre le cerveau ou utiliser le cerveau pour améliorer la technologie. Par exemple, les neuronal networks, on s'est basé justement sur comment fonctionnait le cerveau, etc. Donc, il y a ces deux sens. Et en ça, grâce à ça, on a créé un peu le grand truc, le gros mot que tout le monde utilise, c'est artificial intelligence.
Ouais, l'intelligence
artificielle. Et en fait, quand il y a trois types d'artificial intelligence, il y a le narrow, le medium et le wide. Le narrow, c'est qu'on considère que la machine a une intelligence qui est inférieure à celle de l'humain. L'humain le ferait mieux que l'objet, que le gadget. Le medium, ça serait qu'il est le même niveau que l'humain. Puis après, le wide, ça serait que l'artificial intelligence bat l'humain à une tâche donnée.
La singularité, on va tous mourir.
Voilà, c'est ça. C'est après, on part dans... Mais en ce moment, on est à l'étape, je pense, narrow, pas encore medium.
Ouais, bah oui, les Tesla, ils arrivent même pas à prendre des virages sans
c'est
se cracher.
C'est
ouais.
ça, c'est ça. Et du coup, en dessous de Artificial Intelligence, il y a autre chose qui s'appelle Machine Learning. Et Machine Learning, c'est là où moi, par exemple, mais moi, j'ai besoin d'études d'informatique. Un informaticien pourrait aller directement dans ça. Moi, j'ai fait une base de neuro parce que je savais pas exactement ce que je voulais faire. Maintenant, je vais faire l'info pour pouvoir faire ça enfin. Et donc, il y a le Machine Learning, donc je suis pas exactement sûr de tout ça, tu vois. Mais il y a le machine learning, puis en dessous de ça, il y a le deep learning. Et c'est ce que, par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà vu des vidéos sur YouTube de voitures qui font un crash test. C'est un artificial intelligence qui apprend de ses erreurs. Puis au bout d'un moment, il prend la bonne route, ce genre
ouais,
de choses.
Ouais, ouais, absolument.
En fait, c'est ça.
C'est comme les robots de Boston Dynamics que Google avait racheté, là, qui faisaient les robots qui avaient des parcours qui n'étaient pas programmés, qui étaient juste appris par la machine.
Machine donc c'est que la machine apprend par elle-même.
Ouais, c'est ça.
En soi, ça, voilà, ça c'est le
tu
machine.
Tu apprends à la machine à apprendre, en gros.
Okay.
Puis après, tu peux appliquer ça dans la neuroscience.
C'est comme, je sais pas moi, je voyais un reportage par exemple sur des usines où les employés ne faisaient que cliquer sur des photos et identifier par exemple des feux rouges
pour
l'intelligence artificielle justement.
C'est ça.
Et ils apprenaient à l'intelligence artificielle à reconnaître les feux rouges par exemple. Comme les codes CAPTCHA qu'on saisit à chaque fois, ils te saisissez, cliquez là où il y a des voitures. Tu cliques voiture, voiture, voiture. Et en fait, tu viens de leur rendre un petit service parce que c'est du crowdsourcing pour qu'ils puissent, faire avancer l'intelligence artificielle. Toi, en cliquant sur voiture, 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 de un, tu as vérifié que tu n'étais pas un robot parce que toutes les autres personnes ont cliqué
puis
comme
toi.
Et
le robot, il apprend.
Et le robot, en plus de ça, il apprend.
Les robots apprennent à faire ça, donc.
Ouais, mais c'est ça, c'est
ça pourrait être un robot.
Comme il a dit, après on va être en après medium, c'est quoi déjà?
Il y a le wide.
Ouais, on va être wide bientôt. Ils vont nous ta, on va être wide, pa, ils vont nous éclater.
Mais honnêtement, ouais, il y a beaucoup de gens qui font des théories complotistes en mode ouais, c'est bon, ça va arriver, puis à ce moment-là, on va tout perdre, etc. Faut limiter, faut déjà commencer à mettre des règles, etc. Mais en soi, moi, je trouve que c'est exagéré parce que si on applique ça, par exemple, à la neuroscience, ben là, on peut vraiment aider, par exemple, des sourds à reparler. Comment ça marche? On met une machine qui apprend. En fait, on fait parler des gens.
Ouais.
Puis en les faisant parler, il y a une machine qui lit. Ouais, il y a une machine qui lit les muscles et tous les signaux neuronaux qui ont été envoyés pour faire ce bruit-là. Puis elle va le traduire avec artificial voice et elle va parler. Donc un muet, il va essayer de parler. La machine va capter ce qu'elle dit, puis va le dire à haute voix elle-même.
Damn, c'est fou ça.
Il y a plein d'applications qui sont vraiment
c'est pour le coup, c'est l'intelligence artificielle, comme tu as dit.
Voilà, c'est ça.
C'est apprendre à la machine à interpréter la voix d'un.
On peut pas écrire un algorithme. On peut pas écrire un algorithme pour tout
mais
ça.
C'est spécial parce que si t'es muet de naissance, tu sais pas parler, non?
Mais reste que ton cerveau, il fait quand même le. Ton cerveau fait quand même le. Comment ça s'appelle?
Le mouvement musculaire.
Voilà. La demande, elle est quand même envoyée.
Alright, je le comprends. Même, c'est fascinant, mais c'est vrai que ça me ramène à un autre sujet qu'on abordera vite fait parce que pour le coup, nos connaissances sont très limitées. C'est plutôt une ça va être plutôt une recommandation que
une découverte récente.
Ouais, une découverte récente. Donc on va vraiment pas s'avancer sur le sujet, mais sur YouTube, on a un petit trailer qui joue derrière. On a découvert ça sur Netflix vite fait comme ça. C'était un documentaire qui parlait un petit peu plus de l'ingénierie génétique.
Okay.
Tu sais, on a eu la découverte du génome il y a quelques dizaines d'années. Ouais. On a réussi à mapper un petit peu l'ADN et à avoir cette structure que tout le monde connaît comme ouais. ça, là, en spirale et tout. Puis après, on a appris, il y a eu des découvertes sur... Il parlait de... comment ça s'appelle ? CRISPR, c'est ça ?
Ouais. Et CRISPR.
CRISPR, c'est ça, ouais. Excuse-moi.
CRISPR,
ouais.
9,
CRISPR, c'est des formations professionnelles. Mais ouais, ça s'appelait CRISPR. Et plus précisément, ça parlait de CRISPR-Cas9. C'est genre une méthode avancée qui permettait, genre juste pour la vulgariser vite fait, une fois, les gens regarderont le documentaire. Et surtout, ils iront se renseigner ailleurs que sur le documentaire. C'est juste une des sources. Il y en a plein d'autres. Mais ce que ça permettait de faire... Grosso modo, ce qu'ils expliquaient, c'est que tu avais la map d'ADN de quelqu'un, de n'importe qui, d'un humain par exemple, ou de n'importe quel être vivant, et ils vont le couper d'un certain endroit, par exemple pour sectionner une déformation, que ce soit mentale ou physique ou n'importe quoi en fait. N'importe quelle section de ton ADN, ils peuvent la couper pour qu'elle se reconstitue sans ce défaut ou sans ce truc, sans ce trait ou sans n'importe quoi. Et en gros, ils pourraient éditer le génome tout simplement. Ouais. Ils peuvent aller couper dans l'ADN et modifier ça. Sauf que ça m'y a fait penser parce que tu disais, tu parlais de comment dire, d'éthique et de est-ce qu'on devrait le faire, est-ce qu'on devrait pas le faire dans la neuroscience. Et ben là, c'est le même débat. Et il y a vraiment des gros débats gouvernementaux. On le voit vite fait dans le documentaire. Ouais, il y a des gros débats gouvernementaux. Parce que, tu sais, on avait vu à l'époque, quand ils commençaient, on en avait parlé vite fait, à faire des modifications génétiques, mais sur la descendance. Par exemple, tu sais, ils faisaient des rats fluorescents, ils leur injectent un truc et la paf, ils leur injectent
le
génome d'une luciole et le rat devient un rat luciole, par exemple, à sa naissance. Mais là, c'est encore pire, c'est carrément, comme toi, tu avais montré comme exemple le mec là qui, dont on avait parlé.
Ouais, il y a tu parles de l'aveugle.
Ou celui qui s'est injecté lui-même pour la démonstration.
Ouais, en fait, je sais pas si les termes c'est gène ou génome, je sais pas trop, mais il y avait un gène justement qui renforçait la structure musculaire ou qui permettait un meilleur développement musculaire. On l'a vu justement sur des chiens, tu sais, il y a des photos des fois de chiens hyper musclés, là. Mm-hmm. Ben justement, grâce à ça, ben il y a un gars justement qui faisait une présentation dans le documentaire, puis il dit voilà, il y a ça, c'est très accessible, c'est vraiment une révolution. Puis les gens dans le public lui ont dit « Ben, si c'est tant accessible, pourquoi tu ne l'essayes pas ?» Ben, il s'est injecté ça directement dans la présentation. Okay. Puis, mais il disait que ça prendrait peut-être plusieurs injections régulières sur une longue période de temps pour voir la différence.
Est-ce que c'est le mec qui élevait les chiens au début du documentaire ?
C'est pas le même. Ah, il y a aussi dans le documentaire, il y a un gars qui élève des chiens, qui essaye de les rendre vraiment parfaits, de perfectionner.
Ah, ouais,
okay. Et ce qu'il disait qu'ils ont comme avantage, c'est qu'au lieu de le faire sur une descendance de 200 ans, ou plutôt sur 3-4 générations, il disait qu'il le faisait directement, instantanément. Et c'est ça qu'il disait, on gagnait des... Il disait avant, pour arriver à un tel objectif, il disait par exemple, le mec il était très conscient, il disait, les chiens on les a ruinés, on les a génétiquement modifiés.
C'est depuis... maintenant la race qui a le plus de maladies.
Ouais, il a dit, on les a abusés, c'est ceux qui contiennent le plus de ci, de ça. Et après, le mec, il dit, là, maintenant, on peut les modifier encore plus vite et tout. Il est trop content.
Il veut faire des chiens fluorescents, plus performants, c'est fou. C'est... Gars, il fait ça dans un genre de petit laboratoire maison, là,
Et un kit, il a commandé en ligne et il est content. Il dit, j'ai commandé ce kit-là en ligne sans avoir d'entreprise ni rien du tout.
Ouais, donc c'est spécial. Il y a comme un côté... biohacker, genre un petit côté artisanal dans son salon, je fais des expérimentations, je croise des gènes, c'est fascinant, mais en même temps ça peut faire peur parce que ces gens-là détiennent des connaissances et un pouvoir qui peut genre vraiment mal tourner, là. C'est justement ça dont ils parlent, genre ça peut être utilisé de façon négative, mais aussi ça peut révolutionner le médical puis plein de trucs, là. Fait que c'est sûr, dans le documentaire, justement, il y avait un petit gars que lui, un problème de vision dégénérative, donc il perd de plus en plus sa vision, il voit quasiment rien sauf des grosses lumières, puis il est en train de devenir aveugle. Ben là, il y a un médicament, justement, qui utilise la technologie CRISPR, si je me trompe pas.
CRISPR-Cas9.
Ben, je sais pas si le médicament fonctionne comme ça, mais en tout cas...
Mais faudra regarder le documentaire. Puis... C'est pour ça qu'on a dit au début, ne nous citez pas.
Ouais, c'est assez compliqué, puis on maîtrise pas trop le sujet, mais c'est juste comme pour vous introduire ça, si jamais vous êtes pas au courant. Puis il injecte comme un truc dans l'œil, dans le blanc de l'œil de l'enfant, Puis c'est censé régénérer sa vision très rapidement sur une courte période de temps. Puis tu sais, ce gars-là, sa vie est vraiment difficile. Il est à l'école, c'est le seul aveugle, il a beaucoup de difficultés. Puis c'est le genre d'avancée comme ça qui pourrait complètement changer sa vie. Sauf que après le traitement, il coûte genre 1 million. Tu sais, des trucs comme ça, les familles doivent se ruiner, mais c'est quand même des gros trucs, là.
De un, c'est même pas une question d'argent, c'est juste la possibilité de le faire. Ouais. Et après, dans le documentaire un peu plus loin, on voit aussi des personnes qui sont complètement opposées à ça. Mmh. On voit des personnes qui lèvent la question éthique et qui disent « Ouais, mais vous savez, si on peut faire ça, on peut faire vraiment n'importe quoi. »
C'est de jouer à Dieu un peu.
Ouais, bah, non, mais il y a des chercheurs dans le documentaire qui ont dit « Oui, absolument, c'est tout à fait. » Il y avait une meuf qui avait dit ça « Oui, tout à fait, absolument, c'est carrément jouer à Dieu. » Et la meuf, elle le disait, pas fièrement, mais elle le disait sur un temps un peu... hésitant, tu vois, mais elle disait bah ouais, qu'est-ce que je vous dise. Et en plus de ça, l'autre, ce qu'elle disait, c'est que la question, c'était la descendance après, qu'est-ce que, imagine, c'est... elle parlait de ce qui se faisait aussi au niveau des gouvernements. Elle disait que c'était pas régulé, qu'on attendait juste que ça se passe et qu'après on allait réguler. Sauf que une fois, mec, qu'on a commencé à faire des mutants et tout, c'est chaud ma gueule.
Ça impacte toute la descendance, ouais. Les enfants qui étaient pas au courant, qui ont rien signé,
ouais, c'est
les petits enfants,
c'est trop drôle, ouais. Lul.
Il y a un cas comme ça, ça m'a fait penser à un cas comme ça, c'est, vous savez, on a besoin de donateurs à l'hôpital pour plein de gens qui ont besoin d'un organe.
Don d'organes, ouais.
Exactement. Puis on a trouvé une façon de industrialiser les organes, au lieu d'attendre un donateur qui vient de mourir ou quoi que ce soit, on commence à utiliser CRISPR-9 pour mettre du génome humain dans des cellules de cochon. CRISPR-Cas9. Et ils mettent les gènes qu'ils veulent développer, par exemple, je veux développer un foie. Humain, mais dans un cochon. Fait que le cochon, il va grandir avec un foie humain.
Wow. Puis après, il harvest, il
exactement,
récolte l'organe du
exactement,
cochon.
Exactement.
Mais c'est comme si c'était un donateur. Humain. Comme si c'était un donateur.
Et le cœur aussi, ils font ça avec le cœur. Puis il y a beaucoup de gens qui ont des cœurs, entre guillemets, des organes de
qui
cochon.
Ont poussé dans des animaux, ouais. Dans d'autres créatures.
C'est ça.
C'est de l'agriculture d'organes.
Ouais. Puis la question, c'est... du coup,
c'est du organ harvesting.
Si les cellules, par exemple, elles commencent à devenir de plus en plus humaines, c'est quoi la limite entre animal et humain? Et au bout d'un moment, on va commencer à faire des humains qui sont esclaves, qui sont créés juste pour faire pousser des organes.
C'est de ça qu'Alex Jones parlait, je t'en ai déjà parlé.
Ah ouais.
Alex Jones parlait des fermes d'organes en Chine. Ils ont genre justement des croisements cochons-humains.
Exact.
Plein. Il y en a des croisements araignées-humains. Il y a genre plein de trucs pour optimiser, pour faire des soldats plus puissants qui ont des traits de certains insectes. Mais vraiment, on le sait pas. On n'est pas au courant de tous les
bails. On avait écouté aussi, pour vrai, tu cites un épisode vraiment drôle, mais il y en avait un autre aussi vraiment beaucoup plus sérieux. Je te rappelle celui avec le scientifique, professeur, auteur qui parlait justement d'ingénierie génétique et qui lui parlait beaucoup plus sérieusement des gouvernements et du potentiel danger que ça impliquait. Pour le coup, lui, il a été beaucoup moins dramatique en mode « Ouais, il y a Spider-Man en Chine ou quoi ouais. ?» Mais tu vois, il a dit... Non mais c'est vrai, il a dit des trucs très rationnels qui était potentiellement en train d'arriver, mais bref.
Mais il disait aussi qu'on bientôt on va juste pouvoir customiser notre personnage là.
Ouais, c'est ça.
Genre, tu peux dire ton enfant,
plus
je veux qu'il
enfants,
ait les...
ouais, c'est ça,
je veux qu'il ait les yeux bleus, je veux qu'il ait les cheveux comme ça, je veux qu'il soit grand, je veux qu'il ait une bonne musculature. Hop.
Change la couleur de peau.
Ou même il demande des cartes génétiques. Par exemple, je connais toute ton information génétique. Je peux savoir si tu vas avoir le cancer ou pas, si t'es plus ou moins faible, tes poumons ils sont plus ou moins ci et ça. Mm. Puis en fait, plus le temps avance, plus on peut faire ça avec les êtres humains. Et du coup, est-ce que la question, ça serait, est-ce qu'on aurait on commence à avoir des cartes génétiques? Par exemple, ton employeur, il va checker ta carte, il va voir, tu pourrais avoir telle maladie dans quelques embauches pas.
T'as l'air en parler de crédit, lui, venant de l'ADN, là.
Mais justement, avec CRISPR...
Tu vois, la technologie, elle avance trop vite.
Avec CRISPR, tu peux guérir le cancer.
Potentiellement, ouais.
Ça régénère et ça met une protéine qui permet de régénérer les organes.
Mais c'est ça l'un des avantages, évidemment, et la raison pour laquelle c'est discuté. Et la raison pour laquelle l'opposition dit principalement on régule ça, les gars, on le règle. Et tout le monde n'est pas en train de dire ça devrait pas exister, ça devrait arrêter d'exister, mais tout le monde est en train de dire attendez, venez, on en
parle. C'est de gros enjeux, c'est sérieux.
Ouais, c'est des fucking gros enjeux et on sait pas trop ce qui se passe, mais. La raison pour laquelle on a parlé de ça, comme complètement aléatoirement, c'est que la prochaine fois, pas forcément au prochain épisode, mais dans un des prochains épisodes, on a prévu d'inviter des spécialistes du sujet, donc ça va être cool de leur en parler.
On aimerait beaucoup.
Ouais, des spécialistes du sujet, mais vraiment pour le coup, pas pour radoter ou pour commencer à parler comme ça entre nous, pas quand on dit de la merde, mais que on aura vraiment des gens qui sont insiders sur le sujet très bientôt.
Mais
pour nous en parler.
Pour voir exactement ce dont on a parlé, allez voir le documentaire, je pense que c'est en 3 parties, et je me souviens plus du nom, mais c'est sur Netflix.
Ouais, on l'a eu, mais c'est quoi le nom? Parce qu'il y en a qui regardent pas la vidéo. Unnatural Selection. C'est sélection...
Sélection contre nature sur Netflix. Ouais.
Ok, d'accord.
Ou alors Unnatural Selection. Après, c'est peut-être pas disponible partout dans le monde. Il y en a peut-être qui vont être dans certains pays, ils vont dire je le vois pas. Mais
il y a des solutions pour ça.
Ouais, non, mais je le dis juste. Je le dis juste. Sélection contre nature. C'était une cool introduction au sujet. Après, il y a plein d'autres vidéos ou de.
Mais c'est 3 épisodes sur juste le CRISPR-Cas9.
Et son impact sur la société.
Les biohackers aussi, les gens touchés par des maladies qui ont l'espoir de se faire guérir.
Tu suis plusieurs histoires en fait.
Ouais.
Ça,
c'est des témoignages.
Ouais, c'est plusieurs histoires. Okay, et à chaque fois, tu en suis une, après ça reprend, et après ça switch à une autre, etc.
Ouais, ouais, vraiment
c'est ça,
cool.
C'est ça. Mais non, franchement, c'était un cool podcast, encore une fois. J'espère que ceux et celles qui nous auront suivis jusqu'au bout auront apprécié autant que nous. Ils nous le diront dans les commentaires s'ils ont de petites secondes. Si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à soutenir le podcast en allant vous faire plaisir sur audible.fr/sous-influence. Vous pouvez choper un audiobook gratuit. Et nous avons en fait un soutien de la part de Audible. Donc vous abonnez gratuitement, vous avez un audiobook, vous le gardez indéfiniment. Il n'y a pas d'entourloupe. Et puis surtout, si vous avez un compte Amazon, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête. Vous faites juste vous inscrire direct. Enfin, ouais, vous connectez directement avec votre compte Amazon, audible.fr/sous-influence. Et on revient très bientôt. On a plein de trucs de prévus, plein d'invités de prévus. J'ai hâte.
Yeah, boy.
On était en pause un peu là parce qu'on est revenu de France. On était éclatés. Mais là, on revient en force. On a plein de trucs de prévus. On va même revenir en France bientôt. Bref, parlons peu.
Ce n'est qu'un début, les amis. Merci beaucoup à Ray, à Valentin, à Clément d'avoir participé à l'épisode.
C'était trop bien.
Ouais, vraiment beaucoup de diversité, de témoignages différents et variés.
Exact.
C'était cool de faire un podcast différent comme ça. Vous nous direz ce que vous en avez pensé. Et peace out, tout le monde. On vous aime. À très bientôt. Abonnez-vous.
Bye bye.